à la direction de la programmation culturelle et c'est au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec que je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Donc, pour cette première de trois conférences et tables rondes autour de la science du bien vieillir, il me fait grand plaisir d'accueillir nos invités de marque, le chercheur et conférencier Louis Bérère, la comédienne Françoise Fauché et le cinéaste Fernand Dansereau. Le titre de cette première rencontre, « Il n'y a pas d'âge pour apprendre », vous donne le ton de cette soirée. Nous espérons qu'elle vous permettra d'en conclure que la question n'est peut-être pas tant de rester jeune, mais de savoir imaginer des façons de ne pas devenir vieux. Je vous invite à être des nôtres jeudi prochain pour notre prochaine conférence scientifique « Mieux manger pour mieux vieillir » avec la chercheuse Guylaine Ferland, l'auteur Guy Fournier et la nutritionniste Hélène Laurendeau. Le 15 mai, ce sera au tour du docteur Régent Hébert, de la comédienne Janine Suteau et du communicateur Jacques Languirand de participer à la table ronde. Ardente vieillesse, les atouts des nouveaux aînés. Ce sera notre dernière rencontre dans la série. J'invite maintenant notre animatrice, la journaliste et auteure Carole Vallière, à venir présenter nos invités et vous encourage à enrichir cette soirée de vos expériences en participant à l'échange qui suivra à la fin de la rencontre. Bonne soirée à tous. Je cède maintenant la parole à Carole Vallière.
Bonjour, bonsoir. Merci d'être là. La première chose que Françoise Fauché a dit quand elle est rentrée, c'est « Sont éparpillés partout, tu peux leur demander de se rassembler. » Voulez-vous vous rassembler pour Mme Fauché, s'il vous plaît? Dans le sens que plus vous allez être près de nous, plus ça va être facile de faire un échange. Parce que l'idée de cette soirée-là, et quand Dominique m'a approché pour me demander « Est-ce que ça t'intéresse? » Bien, ça m'intéressait. Parce que c'est la grande tendance, vous allez le voir dans les prochaines années, la grande tendance dans la recherche, la grande tendance actuellement aux États-Unis et en Europe, c'est l'étude du cerveau et c'est l'étude de la vieillesse. Il y a tellement d'organisations qui se mobilisent autour de ces thèmes-là. Ce matin, je voyais quelqu'un qui me disait « As-tu vu l'émission aux États-Unis là, avec les souris? » Bien, ils ont donné des produits d'aliments naturels à une souris puis l'ont fait vieillir deux fois moins vite que l'autre. Alors, on va essayer de vous garder jeune, on va essayer de me garder jeune, mais on n'a pas juste la jeunesse à garder. On a la santé, on a l'équilibre et peut-être qu'il faut commencer à penser aussi à valoriser le vieil âge, le grand âge, les cheveux blancs et les expériences que ces gens-là ont. Alors, quand on présente une conférence comme « Il n'y a pas d'âge pour apprendre », on est un peu provocateur parce qu'on a plus l'habitude d'entendre parler des problèmes de la vieillesse que des atouts de vieillir. Donc, on va un peu à contre-courant. Mais aujourd'hui, j'allais sur un site et j'ai vu qu'il y a des gens qui s'occupent des aînés qui pensent qu'il faut aller à contre-courant. Alors, bienvenue. Merci d'être à contre-courant avec nous. Si vous voulez bien, pendant qu'on va faire la conférence, on va demander à nos invités de s'asseoir dos à vous. Ensuite, on va les inviter à se joindre à mon panel. Et après l'entrevue que je ferai avec eux, j'aimerais vous entendre. J'aimerais ça que ça soit dynamique. Alors, si vous êtes un peu loin et que ça vous gêne de parler, rapprochez-vous. On sera plus en famille, ce sera plus facile de parler ensemble. Ça vous va? C'est bon pour vous? OK. Alors, je vais commencer par inviter à se joindre à nous des gens que vous aimez, que vous admirez. Madame Françoise Fauché, la comédienne très connue. Bonjour, Madame Fauché. Tu vas donc s'asseoir. Vous pouvez leur tourner le dos, ils sont d'accord. Et M. Fernand Dansereau, le cinéaste que vous connaissez. Ce sont nos vieux de service, comme a dit Mme Fauché ce matin tout à l'heure. Ils sont là pour témoigner parce que ce sont des modèles pour nous. Et on va parler avec eux, donc, tout de suite après la conférence de M. Bérère. Louis Bérère, il s'est choisi un métier d'avenir quand il a décidé de s'intéresser aux vieux, parce qu'on dit que dans 30 ou 40 ans, le Québec et le Japon seront les deux sociétés où il y aura le plus de personnes retraitées. Il y aura donc beaucoup de personnes âgées. Au lieu de parler des problèmes des hôpitaux puis des problèmes qu'on aura avec le système de santé, on va vous dire on peut vieillir en restant actif et en faisant travailler son cerveau, c'est le domaine d'expertise de M. Bérère. Alors, M. Bérère est un chercheur qui conteste les généralités sur le vieillissement, évidemment. Il va nous dire que chacun de nous est unique. Ça a l'air évident de dire ça comme ça. Mais en recherche, vous le savez, on fait des statistiques. On essaye de trouver ce qui est commun aux gens. Donc, on dit toujours des généralités sur les recherches. Lui, c'est ça qu'il essaye de contester. Il essaie de mettre en lumière autre chose. Alors, quand on généralise, lui, il se choque. Donc, c'est pour aller un peu plus loin que le professeur Louis Bérère a cherché et va nous dire à nous ce soir quels sont les atouts qui ralentissent le vieillissement et conséquemment qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Monsieur Louis Bérère.
Bonsoir. Merci de votre présence. Merci d'être venu si nombreux. Merci à Mme Parent d'avoir mis en place cette série de conférences. Elle a fait un formidable travail. Merci, Mme Vallière, Mme Fauché, M. Dansereau. Je vais vous parler, moi, de science pour les prochaines quelques 20 minutes avant de laisser la parole à nos distingués invités et tenter de vous montrer qu'on peut apprendre à peu près à tous les âges, hein, qu'il n'y a pas juste les enfants qui peuvent apprendre, mais que les grands-enfants peuvent apprendre encore aussi. La science aime les faits. C'est vrai, on passe notre temps à essayer d'accumuler des faits et d'en tirer des théories, mais il y a des faits qui peuvent se passer de science. Et je pense apprendre peu ce soir si je vous dis que plus le temps passe, plus on vieillit. Et plus on vieillit au Canada, en tout cas, parce que pour mettre quelques chiffres là-dessus, il y aura 10 millions de personnes de plus de 65 ans en 2026, comparativement à un peu moins de 4 millions aujourd'hui. Donc c'est énorme comme changement. Plus on vieillit vieux aussi, parce que les 85 ans et plus, dont on parle peu, parce que c'est ce qu'on appelle, nous, en recherche, nos vieux, forment le groupe d'âge qui augmente le plus rapidement, grossit le plus rapidement dans la société actuelle. En 2003, une personne de 65 ans et plus avait encore tout près de 20 ans d'espérance de vie, ce qui ressemble à 20 fois plus qu'il y a 50, 60 ans. Malheureusement, pour bien des gens, plus on vieillit, plus on devient dépendant, parce que les gens de 80, 85 ans et plus sont en forte proportion, encore aujourd'hui, parce que la science s'y intéresse trop peu, sont encore en forte proportion des gens qui vont développer ce qu'on appelle des dépendances, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin d'aide pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Ça, c'est ce que nous disait Le Monde en 2006. On est en 2008, les choses avancent vite. Je vais vous annoncer des meilleures nouvelles. Enfin, j'espère, parce que toute cette vieillesse-là, ce vieillissement de la population... Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça dépend toujours de la perspective qu'on prend. Si on prend celle de Jacques Brel dans les années 60, c'est pas une bonne nouvelle qu'on soit si nombreux à vieillir, parce que ce que Jacques Brel en pensait, c'était plus ou moins reluisant. Il disait en fait que vieillir, c'était similaire de s'en aller vers à peu près rien et une retraite pas vraiment rose. Pourtant, la presse populaire, en 2005 dans ce cas-ci, nous montre des patrons de personnes âgées, des modèles, des exemples, ce que je pourrais appeler, par exemple, des contre-exemples, parce que c'est des gens qui semblent vieillir drôlement bien. Donc, ça vient contredire un peu la perspective antérieure qu'on avait de la vieillesse ou du vieillissement, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des cas d'exception. Pourquoi il y a des cas d'exception? Parce que le vieillissement, c'est un phénomène extrêmement hétérogène. Si, quand nous, on évalue les personnes dans la vingtaine ou dans la trentaine, on a peu de mal à faire des groupes homogènes, des gens qui se ressemblent et à tirer des théories, quand on évalue des gens plus âgés, on se rend compte que d'une personne à l'autre, il y a extrêmement de variance, extrêmement de variabilité entre les individus. Ce qui me permet de dire qu'on n'est pas tous égaux devant la vieillesse. Des cas de figure, des cas d'exemple, on en a dans la littérature, on en a ici ce soir, qui nous parleront, des gens qui ont une bonne mémoire quand même, qui arrivent en tout cas à fonctionner de façon merveilleuse malgré leur avancement en âge. Et on en a eu un bon exemple dans la presse populaire l'année dernière, quand on a lu que le prix Nobel de littérature en 2007 était une dame de 88 ans, qui atteint le summum de son art, on pourrait dire, puisqu'elle s'est vue mériter un prix extrêmement prestigieux. Et pourtant, elle a un âge vénérable, 88 ans, c'est quand même pas très jeune. Ce qui veut dire qu'un cerveau de 80 ans, ça peut encore produire des merveilles. Vous pourrez me dire, mais oui, mais Mme Lessing, elle vient d'Europe, elle vient de très loin, c'est un phénomène. Mais il y en a ici des phénomènes. Il y en a juste à côté, l'autre côté de la rue, là, il y a une université qui s'appelle l'UQAM et qui a décerné un doctorat à une dame de 78 ans qui a fait un doctorat en histoire de l'art. C'était l'an dernier. Tiens, j'ai plus de mémoire. C'était en 2007. Donc, il y en a des exemples tout proches, tout près de nous, de gens qui montrent des performances intellectuelles assez phénoménales malgré un âge avancé. Si je suis ici, c'est pour vous parler de science, pour parler de recherche, de l'étude du vieillissement. Pourquoi cette étude? Pourquoi on s'y intéresse tant maintenant? Parce qu'on croit qu'étudier le vieillissement, ça peut nous aider à s'adapter aux changements qui surviennent lors du vieillissement. Parce que c'est certain, il y a des changements qui sont inéluctables. Vous le savez, tout le monde le sait, on a tous des gens proches de nous qui vieillissent et on sait qu'il y a des changements qu'on peut difficilement éviter. Sauf que ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, c'est que ces changements-là ne veulent pas nécessairement dire que tout décline et tout péricline avec le vieillissement. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est le vieillissement intellectuel, ou le vieillissement qu'on appelle en psychologie cognitif. Cognitif réfère au fonctionnement intellectuel, c'est un mot un peu savant qui vient du latin et qui veut dire connaître. C'est donc la science de nos connaissances. Comment s'accumulent nos connaissances dans l'environnement, lorsqu'on rencontre des nouvelles personnes, lorsqu'on apprend du nouveau matériel, lorsqu'on lit des nouveaux livres, comment on développe une connaissance générale de notre monde. Puisque je fais de la recherche, il faut que je l'évalue, ce fonctionnement cognitif. Alors, j'imagine que vous devez vous demander comment on fait pour évaluer le fonctionnement intellectuel d'une personne. Évidemment, il y en a beaucoup de façons de le faire. Il y a beaucoup de modes d'évaluation, il y a beaucoup de tests et ils s'en développent tous les jours. Mais j'ai choisi ce soir de vous en faire un en me disant, bon, ça a deux fonctions intéressantes. La première, c'est de réchauffer la salle. La deuxième, c'est de vous montrer concrètement qu'est-ce qu'un psychologue peut développer comme astuce pour essayer de voir comment une personne contrôle son cerveau. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez le contrôler. Alors, comment on évalue le fonctionnement intellectuel? Je vous montre un petit test, un petit exercice qui est extrêmement efficace, qui me permet de voir jusqu'à quel point une personne peut contrôler son fonctionnement cérébral, contrôler les petits automatismes du cerveau et savoir quand est-ce que c'est le temps de les mettre en place. Je pourrais, par exemple, vous présenter le panneau d'en haut. Imaginons que toute la page est remplie de ces petits X de couleurs et vous demandez de nommer la couleur des petits X. Alors, ça irait comme suit, rouge, vert, noir, blanc, bleu, rouge. Vous pouvez le faire parce que moi, je vais arrêter de le faire. Je pourrais vous demander ensuite de donner la couleur des mots, qui sont des mots de couleur. Donc, le deuxième panneau ici. Je vais prendre ma souris, ça va aller un peu mieux. Hein? Vous demandez de dire noir, rouge, jaune, vert. Là, vous pourriez me dire, bon, qu'est-ce qui évalue vraiment le fonctionnement intellectuel? Je ne suis pas certain. Ah bon. On va essayer la dernière, voir. Vous allez me donner la couleur de l'encre. Le plus vite possible. Allez-y. Mais allez! Mais qu'est-ce que vous faites? Bon. Pas facile, hein? C'est le genre d'astuce qu'on développe. Qu'est-ce que je fais ici? Je tire profit d'une étonnante faculté de votre cerveau qui se maintient extrêmement bien avec l'âge, la lecture qui est automatique. Tous les mots qu'on voit, on les lit. Un petit mot simple, dès que l'enfant a passé sa première année avec succès, il le lit assez bien. Hein? Mais les mots de couleur représentent une couleur qui va à l'encontre de la couleur dans laquelle le mot est écrit. Donc, ça crée une interférence mentale. Vous devez interrompre une activité automatique qui est la lecture du mot. Votre cerveau, lui, il lit automatiquement, puis moi, je vous demande d'interrompre ça. C'est donc un contrôle mental. Mais vous savez, on a plein d'astuces parce que moi, je vous ai trouvé un peu trop bon. Donc, on invente d'autres trucs des fois. Par exemple, je pourrais dire à mes participants dans mon étude, là, vous allez me lire, j'ai un chronomètre, je leur fais peur, vous allez me dire, le plus vite possible, quelle est la couleur de l'encre des mots, sauf s'il est encadré, dans lequel cas, vous devez le lire. Et ensuite, on continue avec la couleur, et quand il est encadré, on le lit. Allez-y. Hein? Pas facile, hein? C'est un exemple. J'aurais pu vous en montrer pendant... Je peux vous en montrer pendant 45 heures. C'est le temps d'un cours de cognition à l'Université du Québec à Montréal. Trois heures par semaine pendant 15 semaines. Sauf que là, c'est un petit test, très simple. Et on va y revenir. Je vais vous montrer comment par certains petits trucs, par certaines astuces, on peut faire en sorte de mieux contrôler notre cerveau, même si on vieillit, et qu'il existe des façons de le contrôler un peu mieux. Donc, on va retenir que c'est un test, c'est une épreuve de contrôle mental, d'une certaine façon. Là, vous pourriez me dire, bon, c'est bien beau, mais dans la vie de tous les jours, quand est-ce que j'ai besoin de faire ça? C'est simple. Vous êtes en train de conduire votre auto. Vous savez que le temps presse. Vous avez peut-être une conférence à donner à 7 heures, puis vous savez que vous allez être en retard. Donc là, vous appuyez un peu sur le champignon. Vous arrivez à une intersection, la lumière tourne au vert. Réaction automatique. Vous appuyez sur l'accélérateur. Hein? Mais ça n'arrive jamais à Montréal. Mais supposons que quelqu'un choisit de traverser la rue au moment même où vous appuyez sur l'accélérateur. Vous devez interrompre une action automatique, ce qui est celle d'appuyer sur l'accélérateur au feu vert. Voyez-vous? Donc, le contrôle mental d'une action surapprise, c'est une fonction extrêmement importante dans la vie de tous les jours. Et c'est malheureusement une fonction qui est extrêmement sensible à l'avancement en âge. Je vous dirais qu'après 40, 45 ans, 50 ans, nos personnes qui participent aux études ont de plus en plus de misère à bien contrôler leur cerveau, bien contrôler leur fonction mentale comme ça. Et en fait, c'est ce que résume le graphique ici. Quand on évalue donc la cognition, le fonctionnement intellectuel, à mesure qu'on avance en âge, on se rend compte qu'à partir d'un âge assez jeune quand même, il y a plusieurs fonctions intellectuelles, comme la vitesse intellectuelle, l'attention, la vigilance, la capacité de faire plusieurs choses en même temps, la mémoire, qui vont avoir tendance à diminuer. En revanche, il y a plusieurs fonctions qui, elles, vont augmenter. Les connaissances générales, par exemple, s'accumulent avec le temps. Un expert, ça n'a pas 20 ans. Un expert, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience de vie. Donc, ça peut s'accumuler avec le temps. Et ces connaissances-là peuvent parfois nous aider à compenser des déclins intellectuels. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une espèce de portrait du vieillissement intellectuel. Pourquoi c'est comme ça? Bien, parce que notre cerveau est un organe et que cet organe, comme les autres, vieillit. Par exemple, ici, vous avez une belle... Moi, je ne peux pas vous faire une présentation sans vous montrer des photos de cerveau, parce que c'est ce qui me passionne. Certains, c'est l'art visuel, la peinture. Moi, c'est le cerveau qui me passionne. Vous avez ici à gauche un cerveau d'une personne de 37 ans et à droite, le cerveau d'une personne de 93 ans. Pardon. Voyez-vous, ça, c'est son crâne. Devant, vous avez les yeux. Et à l'intérieur, vous avez, fort heureusement, un cerveau. Les portions noires sont le liquide qui tient votre cerveau en place. Ici, ce sont des ventricules, des espaces vides remplis de liquide. Les portions blanches ici sont les cellules qui communiquent, qui permettent aux différentes régions du cerveau de communiquer entre elles. Les régions du cerveau, les lobes frontaux, les lobes temporaux, l'arrière, le cortex visuel est ici, ce qui vous permet de voir les choses dans l'environnement. Vous voyez que notre jeune, lui, il y a beaucoup de cortex, puis en plus, il y a beaucoup de matière blanche pour connecter toutes ces régions-là. Vous voyez ici que notre personne un peu plus âgée a non seulement un peu moins de cortex parce qu'elle a perdu certaines cellules nerveuses, mais en plus, ces régions blanches sont un peu moins performantes, donc vont moins bien communiquer l'information entre les différentes régions. Et les régions fonctionnent avec des groupes de cellules comme celle-ci, et on voit que la connectivité entre les cellules, comparativement aux jeunes, est beaucoup moins bonne. En fait, les molécules chimiques qui permettent aux cellules de parler entre elles, les neurotransmetteurs, vont avoir tendance à diminuer en quantité, de sorte que nos cellules vont moins bien parler. Un collègue américain résumait la situation ainsi. Vous savez, des cellules nerveuses, c'est comme un vieux couple. Avec le temps, ils communiquent moins bien. Par contre, je vais vous montrer qu'on peut les aider à communiquer. Hein? Qu'est-ce que nous dit la science du bien vieillir intellectuel? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement, faire en sorte que ces cellules nerveuses communiquent mieux, que ce cerveau vieillisse mieux, que le cerveau du malheureux dont je viens de vous présenter l'image tout à l'heure? Bien, d'abord, on part avec l'idée que le cerveau est un organe. C'est un des 3-4 plus gros organes du corps et qui consomme à peu près 20% de l'oxygène que vous respirez à chaque respiration. C'est un organe, donc, qui a besoin de bien respirer, de bien s'alimenter, et on va parler de nutrition la semaine prochaine, vous allez en entendre parler aussi, et qu'on doit stimuler pour que ces cellules-là fonctionnent, communiquent entre elles, il faut les stimuler. Et une fois qu'elles ont communiqué, une fois qu'elles ont travaillé, elles ont besoin de se réalimenter en oxygène et en nutriments, et donc vont aller chercher, le système va s'ajuster, il va aller alimenter nos cellules nerveuses en conséquence. D'où l'importance de stimuler le cerveau. Bon, tout ça, ça a l'air très raisonnable, mais est-ce que c'est prouvé? Est-ce que la science va dans ce sens-là? Bien, la réponse claire, c'est oui. Jusqu'à maintenant, on peut se permettre de dire qu'il existe ce qu'on appelle des modérateurs du vieillissement cérébral, c'est-à-dire des facteurs de vie, des aspects de notre vie de tous les jours qui vont faire en sorte que notre cerveau va mieux vieillir. On a longtemps observé, et on le pense encore, que le niveau scolaire atteint en début de vie, mais même plus tard dans la vie, peut avoir un impact. C'est-à-dire que la stimulation intellectuelle qui est associée au fait d'aller à l'école longtemps va être un facteur protecteur du déclin intellectuel associé au vieillissement. La stimulation cognitive, je vais vous montrer un exemple tout de suite, et l'activité physique, le fait de se remettre en forme physiquement, est aussi un modérateur important. Aujourd'hui, je ne vous parlerai évidemment pas de nutrition parce que la semaine prochaine, vous allez en entendre parler, mais c'est aussi un modérateur important du déclin intellectuel associé à l'âge. Qu'est-ce que la science dit? Vous en avez peut-être lu des brides ou des résumés dans des journaux publics comme Le Devoir, par exemple, ou La Presse. Qu'est-ce que ces résumés nous disent? C'est simple. C'est que lorsqu'on compare des aînés et des jeunes, donc des personnes de 65 ans et plus, dans des études scientifiques qui utilisent des tests ou des épreuves cognitives comme on a fait ensemble, les personnes qui ont été plus stimulées intellectuellement ou sur le plan cognitif montrent moins de différences liées à l'âge. Donc, si moi, je prends un groupe, par exemple, de gens de 60-70 ans, que je les compare à des jeunes adultes, en général, je vois des différences, comme dans la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Sauf que si je prends des gens qui sont très stimulés, qui ont un nombre d'heures de lecture très important dans la semaine, qui vont jouer à toutes sortes de jeux pour se stimuler le cerveau, ces gens-là, quand je les compare à des jeunes adultes, montrent beaucoup moins de différences, beaucoup moins d'effets d'âge, si on veut. Une autre preuve scientifique extrêmement importante, qu'on voit souvent dans les journaux, c'est ce qu'on appelle des résultats longitudinaux. C'est-à-dire, quand je prends un groupe de personnes âgées, je prends une cohorte d'une centaine, 200, 300, des fois même 2000 personnes âgées, je les suis pendant plusieurs années, ce que j'observe, c'est que ces personnes-là, si elles se stimulent intellectuellement, si elles adoptent des styles de vie très stimulants, elles vont montrer moins de déclin associé à l'âge. Autrement dit, la courbe bleue que je vous ai montrée tout à l'heure va être moins accentuée. Je suis certain que le doute persiste encore. En général, quand on montre ces données-là en recherche, les gens vont dire « oui, mais bon, hein, génétiquement, peut-être qu'ils sont protégés, sont allés à l'école longtemps, peut-être que le statut socio-économique n'est pas le même, ils ne mangent pas la même chose. Quand on mange du caviar, peut-être qu'on vieillit mieux, je ne sais pas. » Docteur Ferland nous le dira. Donc, la preuve ultime, c'est quoi? La preuve ultime, c'est je vous prends, vous, là, tous, je vous amène dans le laboratoire. Au hasard, je vous fais faire des stimulations cognitives ou je vous demande d'attendre pendant un mois que je revienne et que j'aie le temps de m'occuper de vous. Et là, je compare ces gens-là que j'ai stimulés, moi, qui viennent de partout. Donc, c'est aléatoire. Donc, votre background génétique, votre bagage, excusez, génétique, votre origine ethnique, votre origine socio-économique est contrôlée, si on veut. Et là, je vais voir, est-ce que c'est efficace de vous montrer des trucs de stimulation cognitive? Alors, c'est ce qu'on fait dans nos laboratoires. Par exemple, à l'Institut de gériatrie de Montréal, on a ce qu'on appelle un labo de cognition, hein, un laboratoire de cognition, qui est une salle, en fait, informatisée où on développe des épreuves, justement, pour stimuler la mémoire, la cognition des personnes. Elles viennent en groupe de 10. Elles ont chacun un ordinateur. Et là, on a développé toutes sortes de programmes pour jouer sur des facettes qu'on connaît comme étant très sensibles au vieillissement. Et ce qu'on observe, c'est qu'en suivant ces programmes qu'on appelle d'entraînement intellectuel, d'entraînement cognitif, les aînés comme les jeunes peuvent améliorer leur performance cognitive. Donc, qu'ils aient 60 ans, 70 ans, 75 ans, nos participants s'améliorent. Parfois un peu moins, ça dépend des épreuves, mais parfois plus que nos jeunes. Ça veut donc dire que les performances intellectuelles sont plastiques, elles sont modelables. On peut les améliorer, peu importe notre âge. On peut aussi améliorer notre mémoire par toutes sortes de trucs. Hein? Vous pourrez demander aux comédiens, aux comédiennes, comment ils font pour retenir l'information et si c'est encore efficace. Mais on sait, nous, que des méthodes, ce qu'on appelle des moyens mnémotechniques, des techniques de mémorisation, peuvent aider les personnes âgées à mieux mémoriser l'information. Alors, une qui est bien répandue, c'est la méthode non-visage, parce que plusieurs personnes âgées se plaignent de ne pas pouvoir se rappeler le nom des personnes qu'elles rencontrent. Bon, moi, je leur dis toujours, c'est normal, les jeunes aussi ont ce problème-là. Hein? Moi, si je rencontre plein de monde, le lendemain matin, je ne me souviens plus qui j'ai rencontré, puis j'ai de la misère à mettre le nom sur le visage. Donc, ce n'est pas nécessairement une question d'âge, parfois c'est une question technique, de stratégie, de porter attention. Un exemple, c'est si je veux me souvenir du nom de la madame qui est là, si elle porte des lunettes, par exemple, je peux essayer de faire une image mentale de son nom, associer une caractéristique physique. Par exemple, elle porte des lunettes, c'est une caractéristique physique. Bon, là, ça tombe bien, j'ai choisi le nom en conséquence, c'est bien évident, mais c'est ça le truc, c'est de trouver un nom pour rendre la trace unique. Alors, Madame Véronique porte des lunettes, j'imagine Véronique dans un verre, pour verre. Hein? Véronique, vous l'avez? Bon. La prochaine fois que je vois Véronique, je vois cette image mentale qui est complètement absurde d'y voir le visage dans un verre. C'est une trace unique. Et j'ai plus de chances de me souvenir de son nom. Bon, là, je vous vois sceptique, mais il faut les pratiquer, ces techniques-là. Il faut développer. Et je suis certain que si je faisais un sondage, il y a plein de gens dans la salle, et ça, c'est vrai, à chaque fois qu'on rencontre des gens dans le laboratoire, ils nous arrivent avec des techniques complètement nouvelles. Hein? Puis des fois, là, ça a l'air presque fou, mais ça marche. Donc, chaque personne va aller chercher ces stratégies-là pour créer quoi? Une trace unique. Il faut qu'on combatte l'ennemi de la mémoire, qui est l'interférence. L'ennemi de la mémoire, c'est le mélange de toutes sortes d'informations. Donc, il faut faire une trace unique d'une personne ou d'un événement. Conclusion sur la stimulation intellectuelle. Je ne pourrais pas mieux résumer mon propos qu'en vous disant que même un vieux singe peut apprendre à faire des nouvelles grimaces. J'ai encore un peu de temps pour parler de l'activité physique. Je ne me suis pas chronométré, je m'excuse. L'activité physique, c'est un autre modérateur important. Je vous le disais, le cerveau est un organe, cet organe doit respirer, comme tous les organes de notre corps. Alors, plus je suis en forme, plus ma santé cardio-respiratoire est bonne, plus j'accumule d'oxygène, plus mon sang va véhiculer de l'oxygène dans mon corps et surtout dans mon cerveau, et le cerveau est un grand consommateur d'oxygène. Et les études montrent en effet que lorsqu'on compare des personnes âgées et des jeunes adultes, les personnes qui sont en très bonne forme physique montrent moins de différences cognitives associées à l'âge. Si je vous faisais un test aujourd'hui de capacité cardio-respiratoire, je vous dis bonsoir, à la prochaine, on se revoit dans 3 ans. Le test que je vais vous faire faire ce soir, évidemment si vous ne changez pas vos habitudes, là, hein, mais le test que je vais vous faire faire va me permettre de prédire en quelque sorte le niveau de fonctionnement intellectuel que vous allez avoir dans 3 ans. Ça permet même de diminuer l'activité physique, les risques de développer des symptômes qui sont apparents à la démence. Donc, peut-être pas nécessairement de vous prémunir contre la maladie, mais de diminuer les symptômes de perte de mémoire, de troubles d'attention et tout ça. Donc, l'état actuel des connaissances nous permet de conclure que l'activité physique est un modérateur. Et de la même façon que je le montrais tout à l'heure, si je prends une cohorte de personnes et que je les suis pendant longtemps, celles qui vont rester actives et qui vont se remettre actives vont être celles qui vont vieillir sur le plan intellectuel le mieux. Donc, c'est une autre façon de bien vieillir sur le plan intellectuel. Encore une fois, en tant que chercheur, moi, j'ai besoin d'un test, d'une preuve, pas juste de l'observation d'un fait. Donc, ce qu'on fait à l'Institut de gériatrie, c'est qu'on invite nos participants âgés, normaux, sédentaires, plus ou moins en forme, et même certaines personnes âgées arrivent avec une canne au gymnase, et là, on les remet en forme. Ça dure 3 mois, 6 mois parfois dans certaines études. Et on sait, pour avoir fait ces études-là, qu'un programme d'entraînement physique peut favoriser l'amélioration des performances intellectuelles, tant chez les personnes âgées que chez les jeunes, mais surtout chez les personnes âgées très sédentaires. Ça va avoir un effet bénéfique très, très tôt, même après seulement 3 mois d'exercice physique. Ici, vous avez, et ça, ce n'est pas une photo là, d'un magazine que j'ai payé très cher à la librairie, c'est une vraie photo de nos personnes qui s'entraînent dans le club Lapadar, au centre Claude Robillard. Vous savez, c'est dans le nord de la ville, c'est là où Alexandre Despatie s'entraîne. Où ça vous intéresse? Ça a l'air de quoi, une étude d'entraînement physique? C'est de la science, c'est de la recherche, mais c'est très simple. En fait, on fait venir les gens et on les teste, comme on dit. On les évalue. On évalue leur cognition, leur fonctionnement intellectuel et leur capacité physique. Ensuite, on les entraîne pendant 3 mois, 6 mois. Et bien entendu, notre groupe entraînement que vous avez ici, on va le comparer à ce qu'on appelle un groupe contrôle, qu'on n'entraîne pas, qu'on laisse aller en liberté, qu'on va revoir dans 3 mois, pour voir comment ils évoluent naturellement, ces gens-là. Notre laboratoire est équipé d'un gymnase, bien entendu, pour accueillir tout ce beau monde. Là, vous les voyez ici, Martine, notre entraîneur, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, ils n'ont pas de l'air sérieux, là, mais ils doivent jouer avec des ballons. Ici, c'est plus sérieux, ils font des tests de force physique. Évidemment, il faut se remettre un peu en forme physiquement avant de pouvoir faire des activités cardio-respiratoires. Et ici, vous les voyez, sur le tapis roulant, sur vélo assis, quand ils ne peuvent pas utiliser le tapis roulant. Ici, vous avez un monsieur de 89 ans qui est assis sur un tapis, sur un vélo, parce qu'il, lui, ne pouvait pas faire du tapis roulant. Il arrive avec une canne et ce serait trop dangereux. Donc, ce n'est pas des gens en forme, là, comme vous avez vu dans le début de la présentation, là, qui font du ski nautique. Là. C'est des gens qui sont sédentaires et souvent, ils n'ont jamais fait de sport de leur vie. Un peu de science. Ici, vous avez leur performance cardio-respiratoire. Regardez le groupe rouge. Le groupe en rouge, c'est le groupe qui s'est entraîné pendant 3 mois. Vous avez leur performance quand je mesure l'entrée d'oxygène dans leur corps. OK? Faites pas attention aux chiffres, là, mais c'est la quantité en millilitres d'oxygène consommé par le sang, véhiculé par le sang dans le cerveau et dans tous les organes. Au début de l'entraînement, tout ce beau monde est pareil, pas très en forme. Et après l'entraînement de 3 mois, mon groupe entraîné est hyper en forme. Oups, pardon. Il est ici. Là, vous allez me dire, bien, c'est une grosse nouvelle, hein? Les entraînés sont en forme. C'est ça, la science? Non, la magie là-dedans, c'est que leur cerveau fonctionne mieux. Vous souvenez-vous de notre test de contrôle mental? Bien, mes rouges, là, que j'ai entraînés, ça, c'est le temps qu'ils prennent pour faire une épreuve d'à peu près 100 mots. Hein? Je vous avais dit, on a des astuces un peu machiavéliques. On leur demande de faire 100 mots, puis on chronomètre. Puis on leur dit, allez vite, allez vite, allez vite. Évidemment, ils font plein d'erreurs. Même moi, j'en ferais si je l'essayais. Mais surtout, ça leur prend beaucoup de temps pour passer le test. Mais après l'entraînement physique, ils sont améliorés considérablement. Vous avez ici leur amélioration après le 3 mois d'entraînement physique. Alors qu'ici, vous avez mon groupe contrôle qui ne s'est pas amélioré du tout après l'entraînement, parce qu'il n'a pas fait d'entraînement physique. Pourquoi ça fonctionne maintenant? Il est encore tôt pour savoir exactement pourquoi ça fonctionne, mais on a des hypothèses, évidemment. On sait que la santé physique, le fait de garder son corps en forme, nous permet de garder notre système vasculaire en forme. Donc, le sang circule mieux et ça favoriserait le transport d'oxygène via les globules rouges qui seraient plus nombreux et qui se promènent un peu partout dans votre corps. Ça améliore donc le flux sanguin cérébral. Et votre cerveau, en vieillissant, perd quelques capillaires sanguins. Ça, c'est des micro-vaisseaux sanguins qui sont un peu partout dans votre cerveau. Et évidemment, ces petits vaisseaux-là vont avoir tendance à mourir parce que sous-utilisés. Et là, si vous vous mettez en forme, bien, ça va avoir tendance à demander plus d'irrigation. Et ça crée même chez les animaux, on le sait, parce qu'eux, on peut vraiment mesurer leur cerveau et le découper ensuite. C'est pas moi qui fais ça, mais il y a des gens qui font ça. Et on peut voir que le cerveau s'alimente mieux en sang après que l'animal ait fait un exercice physique intense. Ça favorise donc la communication entre les cellules, la création de nouvelles connexions nerveuses et de nouveaux neurones même chez les populations animales. On a vu que le fait de se remettre en forme fait générer des nouvelles molécules qui, elles, sont précurseurs de nouveaux neurones chez l'animal. Évidemment, ça peut avoir un effet beaucoup plus complexe. Et ça, on le sait. Ceux qui font du sport ici, ou qui en ont déjà fait, vous savez que rester en forme, ça l'aide à mieux dormir. Les gens qui courent le jour dorment bien le soir. Hein? Ça diminue les chances de maladies pulmonaires, de faire de la haute pression. Ça contrôle mieux l'obésité. Ce sont tous des facteurs qu'on connaît de mieux en mieux pour leur rôle important sur le fonctionnement intellectuel. Les personnes âgées qui ont des problèmes de poids, qui dorment moins bien, qui font de la haute pression, sont celles qui sont plus susceptibles. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des problèmes cognitifs, là, mais ils sont plus susceptibles d'en développer avec le temps. À l'inverse, les gens qui se gardent en forme vont en développer moins. Et les gens qui se mettent en forme, évidemment, ont probablement tendance à mieux s'alimenter parce que après avoir couru un peu de marathon, il faut bien manger. Et souvent, les gens qui font attention à leur santé vont mieux manger. Et ça a un effet direct sur la vitalité cognitive. D'accord? Ce qui permet à un physicien américain de conclure que ceux qui ne croient pas avoir le temps pour faire de l'exercice physique devront tôt ou tard avoir le temps d'être malade. Donc, c'est à nous de choisir où on a envie de perdre notre temps. Après tout ce que je vous ai dit, qu'est-ce que je dois retenir? Je m'en vais ce soir. Qu'est-ce que je dois retenir du message si je n'ai pas envie de retenir tous les graphiques? bien, il faut que je retienne au moins que je peux faire quelque chose, que j'ai un potentiel d'action, une maîtrise sur mon vieillissement cérébral, d'une certaine façon. Je ne suis pas en train de dire que c'est la fontaine de jouvence et que demain matin, vous pouvez inverser le cours de l'horloge, mais qu'il y a certainement une action qu'on peut faire, une prise en charge, qui peut faire en sorte que mon vieillissement cérébral sera mieux géré. De la même façon que plusieurs d'entre vous, j'en suis certain, êtes bien conseillés pour bien gérer votre retraite. Hein? Ce qui me permet de faire l'analogie, du plan de retraite cérébral. Si on s'assoyait et on faisait un plan de retraite cérébral, je vous dirais, faites comme votre plan de retraite financier, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, prenez pas votre argent de retraite, vos REER, et les mettre à une seule place. Les planificateurs financiers vont vous dire « diversifiez votre portefeuille ». De la même façon, il faut diversifier ses activités. Pourquoi? Parce qu'en vieillissant, on a des besoins différents. On est plusieurs, on aime bien côtoyer nos amis, voir nos amis, on peut faire du sport en groupe, on peut faire des activités intellectuelles en groupe, mais il y a des journées où il neige, ça arrive au Québec, vous savez, où on ne peut pas sortir parce qu'on est moins mobile, on n'a pas le temps d'aller voir notre groupe d'amis. Est-ce que ça veut dire qu'on est plus actif? Bien, non, si on a des activités personnelles, sportives ou intellectuelles. Donc, il faut diversifier, avoir des activités en groupe, avoir des activités autonomes, avoir des activités physiques très intenses, idéalement, pour se garder en forme, mais pas trop, parce que s'il y a des journées où, je ne sais pas, l'arthrite fait des siennes, où il ne fait pas beau, où il neige, je ne peux pas faire mon sport intense, bien, je peux peut-être avoir des activités de sport moins intenses. Je suis moins en forme, mais je peux faire du sport quand même plus modéré. Donc, on conseille souvent aux gens d'avoir des activités très autonomes, mais aussi en groupe, très actives et très énergivores, mais d'autres moins actives, de façon à avoir toujours, si on veut, un potentiel de maximiser son fonctionnement cérébral et de le garder en forme. Et je vais m'arrêter ici, puis vous laisser avec une autre phrase intelligente, qui n'est pas de moi du tout, mais que j'aime beaucoup. Que votre cerveau n'arrête jamais de se développer et de changer, qui a commencé lorsque vous n'étiez qu'embryon et continuera toute votre vie. C'est une chose que la science sait maintenant et qu'elle ne savait pas il n'y a pas si longtemps. C'est probablement la propriété de votre cerveau qui est sa plus grande force. Évidemment, il y a toute une équipe de recherche qui me permet de venir vous raconter ces choses ce soir et je les remercie pour le travail merveilleux qu'ils font avec moi à tous les jours. Merci.
Avez-vous encore des espadrilles? Avez-vous ça, des espadrilles?
Oui.
Avez-vous ça, des espadrilles? Des souliers de course?
Oh, j'en ai jamais eu.
Demain matin, qu'est-ce que vous faites demain matin?
Surtout pas.
Alors, je ne sais pas, vous, peut-être que vous êtes déjà préparé mentalement à aller suivre un cours de psychologie à l'Université du Québec à Montréal avec M. Bérère. Peut-être que vous allez vouloir devenir sujet pour une de ces études. Et savez-vous, quand on est allé visiter avec Dominique son laboratoire, comment ça s'appelle, d'études de la santé cognitive des aînés, il nous a dit, confirmez-le, M. Bérère, que quiconque dans la salle voulait devenir un sujet de votre étude, vous prenez ses coordonnées et éventuellement, il peut faire partie de l'étude. Vous n'êtes pas venu pour rien. Alors, comment? C'est lui qui décide, puis vous ne le dites pas d'avance.
En fait, c'est même pas moi qui va décider.
En plus, hein. C'est pas vous qui décidez.
Il y a toute une équipe qui va décider, qui va vous poser des questions. Mais bien sûr, et je ne suis pas le seul laboratoire à l'Institut de gériatrie. Il y a plein de recherches, plein de recherches intéressantes qui s'y passent. Puis je pense qu'une chose qui est importante, c'est la collaboration des gens, parce que les gens qui fonctionnent dans la vie de tous les jours, les gens en santé, nous permettent de mieux comprendre le vieillissement cérébral puis d'aider ceux qui n'ont pas la chance que vous avez.
Je vous invite à venir vous asseoir avec nous, M. Bérère, et je vais inviter Mme Françoise Fauché et M. Fernand Dansereau. Vous les connaissez tous les deux, mais permettez-moi de vous rappeler quelques petites choses que vous avez oubliées, je suis certaine. Savez-vous que Mme Fauché, elle a joué dans plus de 125 pièces de théâtre, qu'elle a commencé à faire du théâtre dans les années 50 au Québec, en 51, si ma mémoire à moi est bonne, et qu'elle a commencé à faire de la mise en scène, elle était pour avoir 60 ans. M'avez-vous dit que vous avez commencé la claquette à 62?
Oui, aussi.
La claquette à 62, là, voyez-vous. À Alors, Madame Fauché, a une carrière remarquable, on le sait. Vous savez qu'elle a été nommée officier de l'Ordre du Canada. Elle a reçu le prix français, ça s'appelle Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. C'est des décorations parce qu'elle a une carrière remarquable et un talent remarquable. Moi, je me souviens d'elle quand elle était animatrice à Femmes d'aujourd'hui. Elle a fait ça pendant 15 ans à Radio-Canada, si vous vous souvenez. Donc, elle a fait de l'animation. Elle était comédienne dans des téléromans, dans des films, on l'a vu surtout au théâtre. Et maintenant, elle est metteur en scène à 16 heures. Elle fait des lectures. Vous avez fait une lecture aux Belles Soirées en décembre dernier.
Oui, sous la direction de Marie-Louise Leblanc, ici présente d'ailleurs.
Et on parle
d'Alzheimer et d'accompagnement des mourants, enfin des sujets graves, mais.
Voilà. Alors, c'est pour ça qu'elle est inspirante et c'est pour ça qu'on a eu envie que vous la rencontriez et que vous lui posiez des questions à quelques moments que ce sera. Hein. C'est moi qui vais leur poser des questions, mais vous, quand vous voudrez, il y a deux micros qui sont là pour vous. Monsieur Dansereau, vous le savez, c'est lui qui a écrit « Parc des Braves ». Tout le monde a écouté ça, le Parc des Braves. Alors, Monsieur Dansereau, lui, a gagné le prix Albert Tessier. Le prix Albert Tessier, c'est une récompense qu'on donne à des pionniers du cinéma parce que Monsieur Dansereau a été un membre actif à la création du programme français de l'Office national du film. Il a eu donc ce prix Alfred Tessier en 2005 et l'année passée, au mois d'août, je pense, hein, au Festival des films du monde que vous avez lancé, La Brunante. Alors, en août dernier, il lançait son film La Brunante. Je l'ai apporté pour vous le montrer parce que vous pouvez aller le voir ici à la bibliothèque si jamais vous ne l'avez pas vu. Vous voyez, c'est la photo de Suzanne Clément et Monique Mercure. C'est un film remarquable et touchant qui tourne autour de la maladie d'Alzheimer. Génial. Alors, vous avez compris qu'il passe à l'Outremont lundi prochain, au Théâtre Outremont. Formidable.
Puis il est aussi désormais dans les ciné-clubs.
Oui,
dans les vidéoclubs.
Voilà, moi, je l'ai pris à la boîte noire de la rue Mont-Royal. Donc, voilà. Et vous avez précisé, à cette époque-là, où vous avez lancé le film La Brunante, que chaque film vous avait permis d'apprendre... Et que vous voyez dans La Brunante une façon d'approcher votre propre vieillissement à vous. Expliquez-moi ce que vous vouliez dire. Comment est-ce qu'un film autour de la maladie, ce n'est pas un film sur la maladie d'Alzheimer, c'est un film sur une femme qui développe la maladie d'Alzheimer. Comment est-ce que ça, pour vous, c'est approcher votre vieillissement?
C'est-à-dire que ça a été long de développer le projet La Brunante, c'était long à scénariser, c'était très long à vendre, c'est-à-dire à convaincre les institutions et les distributeurs d'encourager le projet. Alors, j'ai vécu beaucoup d'années avec La Brunante.
Vieilli avec La Brunante.
C'est ça, c'est exactement ça. Je vieillissais, puis c'est sûr que comme toutes les gens qui vieillissent, j'avais à faire face aux défis de l'âge. D'abord, à toutes les douleurs qui viennent avec, les grands puis les petits deuils, puis aussi les découvertes, les belles choses qui viennent avec l'âge. Alors, pas de façon tellement rationnelle à la façon d'un artiste. Je me suis servi de l'écriture, puis éventuellement du tournage du film, pour essayer de trouver du sens à ce qui m'arrivait, à travers la symbolique que je manipulais. Puis pour moi, c'était très, très vital. Le film, l'intuition initiale du film a commencé avec le suicide de Claude Jutras, qui était mon ami.
Ah, oui.
Et qui a décidé de mettre fin à ses jours parce qu'il avait l'Alzheimer.
Voilà.
Puis j'ai un autre ami très cher aussi, Michel Moreau, qui devant le même problème, c'est-à-dire le fait qu'il venait de recevoir un diagnostic d'Alzheimer, a décidé que lui allait vivre. Alors j'avais les deux. Et c'était deux amis proches. Leur choix, ça m'a beaucoup travaillé. Ça m'orientait vers essayer de voir quel sens ça a ma vie. Et puis, par rapport au choix qu'ils ont fait. C'est comme ça que le film est né.
Bon, ben, on ne vous donnera pas l'histoire, hein, vous le regarderez. Mais donc, c'est la thématique qu'il y a dans ce film-là. Madame Fauché, j'aimerais qu'on réagisse à ce que M. Bérère a dit. Il a dit qu'il faut stimuler notre cerveau. Vous, comme comédienne, vous êtes toujours en train d'apprendre des textes.
Oui, j'en ai appris beaucoup. J'en apprends moins maintenant, si vous voulez. Il y a moins de rôles pour les personnes âgées, donc moins d'occasions. Mais, comment dire, c'est une drôle de chose que la mémoire. Vous l'avez dit, j'ai joué beaucoup, j'ai donc appris beaucoup, 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 beaucoup de textes, et des fois des textes très, très difficiles. Et en parlant avec des camarades, enfin, un jeune premier comme Gérard Poirier ou une autre jeune première comme André Lachapelle, bon, on est à peu près tous du même âge, sauf André, c'est un cas, on ne la voit pas vieillir. Mais on en est tous arrivés à la conclusion que plus on avance en âge, et plus c'est difficile. On a beau avoir des cerveaux stimulés, parce qu'on est toujours en train de lire quelque chose, de répondre à des questions. Quand on est comédien, vous le savez, on est censé avoir des réponses à tout, alors on nous pose des questions sur des tas de trucs, et bon, on se tient au courant. Bon. Mais apprendre. Les textes de télévision, on les apprend, on ne sait même pas comment, en répétition. Les textes de théâtre, surtout quand ils sont écrits par Claudel, Monterland, Giraudoux, Racine, peu importe, ça s'apprend. Bon, mais ça, quand on est jeune, ça s'apprend vite. Tandis que maintenant, si vous devez jouer une pièce, et ça m'est arrivé l'année dernière, je savais que le 4 septembre, jour de mes 78 ans, c'était la première de « Oh, les beaux jours » à l'Espace Go. Donc c'était un rôle énorme auquel je tenais infiniment et depuis fort longtemps. Eh bien, j'ai commencé à apprendre mon texte à partir du mois de février. J'ai des camarades qui savent très bien qu'en septembre prochain, ils vont aussi avoir un rôle très important. Eh bien, je sais que l'un vient de commencer donc en début du mois, enfin, disons, avec le mois d'avril, il a commencé à étudier. Et j'ai une amie qui va aussi avoir un rôle très important en septembre. Elle a commencé à Noël.
Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est la
c'est
peur?
C'est indispensable. C'est indispensable, sinon vous mourrez.
Vous mourrez de peur?
On meurt de peur.
Voilà, c'est la peur.
Et c'est... oui. Et c'est curieux parce que j'en parlais à monsieur tout à l'heure. J'ai vraiment senti ça très profondément. Quand on est jeune, on lit, pof, ça s'imprime, on le sait. Plus ou moins bien, mais on pense le savoir. Quand on a passé un certain âge, et moi j'en ai assez de penser qu'à 50 ans on est vieux et qu'à 60 ans on est vieux, c'est pas vrai.
Moi, à quel âge, Madame Fauché?
Moi, j'ai l'impression qu'on commence à se poser la question à 75 ans.
Parce que c'est une question qu'on se posait, nous, quand on
non.
Invitait des...
Non, avant, taisez-vous, ne parlez pas de vieillissement, faites ce que vous avez à faire, et qu'on arrête de nous parler, à nous, les vieux, comme si on était des... Bon, 75 ans, là, ça commence à... Bon.
Vous êtes d'accord, et... Louis?
Oui.
75 ans, c'est bon?
Le micro, hein.
Il se passe quelque chose, là.
Ça va dans le sens de ce qu'on observe beaucoup en recherche, effectivement.
Oui. Hein.
Avant 75 ans, les gens, s'ils sont le moindrement en forme ou qu'ils sont assez stimulés, c'est pas une grande chute qu'on a. Mais après 75 ans, il se passe quelque chose, effectivement.
Et qu'est-ce que ça vous inspire quand
alors,
vous voyez...
Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai senti très profondément que la mémoire, c'est comme une plaque photographique. C'est-à-dire que vous lisez votre texte.
Vous avez sans doute des trucs en plus, hein. Vous avez développé des trucs pour
oui,
apprendre.
Oui, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce qu'on va penser que Véronique est dans un verre qu'on va apprendre son texte. C'est ponctuel, ça. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas pour critiquer, mais c'est ponctuel.
Mais moi,
et
disait...
encore faut-il que Véronique nous intéresse. Parce que si... Non, c'est vrai, parce que si on se fiche de Véronique comme de sa première chemise, on a beau la mettre dans tous les verres qu'on voudra, on ne s'en souviendra pas. Il y a une question d'intérêt. Mais un texte important que vous devez apprendre, ça bute sur votre plaque photographique, ça ne fait rien. Et vous recommencez, et vous recommencez, et vous recommencez. Et tout d'un coup, vous sentez qu'il y a une petite impression qui commence à marquer.
Okay.
Et c'est à partir de là que la confiance revient aussi et que vous vous dites « Ah, cette page-là, il me semble que je la sais. » Mais le lendemain, vous risquez fort de ne plus vous en souvenir. Il faut recommencer. C'est pourquoi je vous dis que c'est un travail de très, très, très longue haleine. Il faut vraiment avoir envie d'apprendre par cœur.
Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction, Louis Bérère?
C'est certain qu'il faut avoir un peu envie. Je pense. Mais je pense que la mémoire, c'est un drôle de phénomène. Puis je pense que c'est clair que, bien au-delà des effets d'âge, il y a des effets qu'on ne contrôle pas toujours bien. On essaie désespérément d'apprendre quelque chose qui ne rentre pas, mais bon Dieu, que des fois, on aimerait bien oublier quelque chose qui est rentré et qui est indélébile. Donc, la mémoire, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle parfaitement.
On a tout quelque chose comme ça ici, là. Quelque chose qu'on aimerait oublier. Puis qu'on
et en psychologie,
pas.
On connaît bien ça, parce que, bon, moi, je travaille du côté de mettre en mémoire des choses, mais j'ai des collègues qui travaillent à faire oublier ou à faire reconstruire autrement des événements passés qu'on aurait aimé pouvoir
dans
oublier.
Dans le fond, on ne sait pas beaucoup comment fonctionne la mémoire.
On sait mieux qu'avant, mais pas encore parfaitement bien. Ouais. Et de ce côté-là, ben, c'est certain qu'il y a toute une question de motivation, il y a toute une question des trucs et astuces qu'on peut essayer de développer pour mieux s'en servir. Je pense qu'il faut voir aussi à quoi ça sert tout ça. Parce que, oui, vous avez mentionné, encore faut-il vouloir, mais il y a des gens qui veulent vraiment beaucoup, pas la perdre, cette mémoire-là, ou continuer à mettre en mémoire de l'information. Et je pense que c'est là que tout devient intéressant, parce qu'en vieillissant, les gens ont peur de perdre la mémoire. Et la peur, ça, je veux revenir là-dessus, parce que ça a été mentionné, la peur de perdre la mémoire, en recherche, c'est ce qu'on appelle l'anxiété liée à la perte de mémoire, ne prédit pas les performances mnésiques des gens.
Oh, ça c'est-à-dire
que les gens qui ont peur de perdre la mémoire, moi, s'ils arrivent et me disent « Monsieur, j'ai plus de mémoire, je le sais, ça ne marche plus bien », ça ne me dit en rien que c'est vrai. Ça,
parce que vous savez, tous ces livres-là qui nous disent que nos pensées, c'est ça qui va faire notre vie, là, bien, je viens de dire le contraire. Mais que si on a peur, quand vous pouvez même avoir peur, c'est pas ça qui va faire que votre mémoire va être...
C'est plus mécanique qu'on pense aussi. Bon, il y a tout l'aspect émotif, là, comme je viens de mentionner, qu'on oublie sans vouloir et qu'on retient sans vouloir. Mais il y a des trucs qui fonctionnent assez bien. Puis je pense que le simple fait qu'il faut travailler, vous me dites qu'il faut travailler plus. Oui, c'est vrai. Je ne vous le cache pas.
Le message que je véhicule
est un message positif, parce que les gens, comme chercheur, mon rôle de venir parler aux gens à l'extérieur des laboratoires, c'est peut-être une façon d'intervenir. Je ne suis pas médecin, c'est pas moi qui donne la pilule, mais je me dis, en disant à tout le monde, attendez, vous êtes actif, vous pouvez agir, c'est un message positif, vous pouvez agir plus, vous devez travailler plus fort, c'est vrai en activité physique aussi, hein. En fait, une personne de 30 ans en très, très bonne forme physique n'est pas vraiment plus alerte au niveau cognitif qu'une personne de 30 ans moins en forme, à moins que la personne moins en forme ait des problèmes physiques importants. Mais deux personnes en bonne forme physique, là, l'athlète n'est pas meilleur. En vieillissant, par contre, ceux qui restent en forme se prémunissent. Voilà. Donc, oui, il faut travailler plus fort. Ça, c'est peut-être le bémol, et c'est vrai dans tout.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Fernando?
Ben, c'était juste la notion d'interférence que vous avez utilisée tout à l'heure. Moi, je croyais que ça m'éclairait sur le phénomène de... Par exemple, quand je vais dans un cocktail, une réunion, je vais oublier les prénoms des fois de gens qui sont très proches et très chers. Puis j'avais tendance à interpréter ça comme une perte de mémoire. Mais en même temps, je me dis, avec l'âge, je suis devenu beaucoup plus sensible à mon environnement humain. C'est que peut-être que c'est l'interférence. Quand je suis tout à coup dans un groupe de gens... J'ai une part de mon énergie qui est là à surveiller tous ces gens que je connais et que j'aime, et donc, par conséquent, je suis moins attentif tout à coup à la conversation avec une seule. Est-ce que c'est possible?
Oui, mais ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que les recherches en cognition montrent que, justement, plus... Bon, d'abord, je reviens sur la notion d'interférence. La notion d'interférence, c'est vraiment la bête noire de la mémoire.
Mais c'est les interférences émotionnelles. Là. Quand on est pris dans une émotion, puis on a une autre émotion, puis là, ça se mêle.
Mais c'est parce que ça fait ressurgir des mémoires aussi. Ça fait ressurgir des événements, des noms. Et ce qui a tendance à être observé, c'est que les gens, en vieillissant, accumulent des connaissances et retiennent des faits plus globaux, plus généraux. Par exemple, qu'est-ce qui me motive à aller dans ce cocktail? Pourquoi je suis là? Qui je viens rencontrer? Puis souvent, c'est la profondeur de l'événement qui motive les gens beaucoup plus que les petits détails de « je rencontre un tel et je rencontre un tel ». Les experts, par exemple, dans toutes les formes d'expertise, ce sont des gens qui, plus rapidement qu'une jeune personne, va faire un diagnostic, va faire un jugement général sur la situation,
voilà.
Mais qui prend plus de temps qu'un jeune pour faire un jugement précis sur la situation. Tout se passe comme si l'expert accumule une grande quantité d'informations qui crée un peu d'interférence. Donc, les noms de personnes, d'une personne ou de l'autre, c'est peut-être moins facile. Mais l'événement, lui, fait une trace plus prégnante.
Okay.
Et donc, il y a comme un nettoyage qui se fait. Et c'est pour ça que des fois, je me dis, bon, vous pourrez me dire, vous, ce que vous en pensez. Mais moi, je me dis, si c'est peut-être plus difficile de prendre des textes en vieillissant, c'est peut-être parce que vous en savez trop de textes.
Il y a de l'interférence.
Il y a de l'interférence pour en ramener un sur scène unique. Il se bat avec les autres. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites.
Les textes, généralement, quand on apprend un texte pour une pièce de théâtre, à moins qu'on soit obligé de partir en tournée avec la même pièce, au bout d'un mois...
On l'a oublié, hein? Ouais. On apprend vite, on oublie vite.
On apprend vite, on oublie vite. Ouais. Mais la pièce de théâtre qu'on aura mise 6 mois à apprendre va rester plus longuement ancrée dans la mémoire que... J'ai remarqué ça. Que les autres textes qu'on apprend plus facilement.
Monsieur Dansereau, la mémoire, c'est la première, probablement, c'est la première alarme qui sonne quand on s'approche de la maladie d'Alzheimer. C'est ça qui déroute, qui nous inquiète. C'est ça qui inquiète votre personnage aussi. Est-ce que vous-même, ça vous inquiète? Vous avez vu vos amis? Est-ce que vous avez choisi ce sujet-là parce que c'est le sujet de la vieillesse ou bien parce que c'est votre sujet à vous? Ça vous fait peur? C'est votre spectre personnel?
Non, pas du tout. Je n'ai pas pensé à moi. Peut-être que j'aurais dû, mais je n'ai jamais pensé que je pouvais être inquiété par ça. Puis je dirais, quand j'ai fait mon film, j'avais conscience que l'Alzheimer me servait de prétexte. Au fond, mon personnage principal aurait été pris avec la sclérose en plaques, que le film n'aurait pas été très différent. C'était intéressant d'utiliser l'Alzheimer parce que j'utilisais aussi du métrage d'autrefois, tourner avec la même comédienne et je pouvais faire des jeux de mémoire dans le film qui m'amusaient. Alors c'était... Puis il y avait aussi le fait que le départ, comme je vous disais, c'était le cas de deux amis qui ont eu de l'Alzheimer. Mais moi, personnellement, je n'ai pas craint ça. Mais j'aimerais ça poser à M. Berrer une question.
Vous n'êtes pas venu pour rien, vous. Hein?
J'ai une expérience paradoxale avec le vieillissement. C'est que je constate bien que je vieillis, non seulement dans le regard des autres, mais dans ce qui m'arrive et tout. Mais à l'intérieur de moi, je n'ai pas l'expérience de vieillir du tout. Je suis resté fixé au même âge il y a très, très longtemps. Puis, quand il n'y a pas un événement extérieur pour me rappeler que je suis vieux, je me sens jeune.
Doris Lessing en parle beaucoup dans ses ouvrages. Elle,
un événement extérieur ou les autres?
Oui, il y a les deux.
Ça correspond à votre expérience, Mme Fauché. Vous opinez...
Ah, beaucoup. On me regarde, on me voit, on dit « Ah, mais vous êtes encore très active, le encore, là. » Et j'ai envie de dire « Oui, encore vivante, excusez-moi. Oui,
mais est-ce
encore,
que comme
encore. »
Mais M. Dansereau, vous vous sentez à l'intérieur encore jeune, quoi. C'est ce que vous dites, mais, M. Dansereau, là.
Oui, parce que ce sont les mêmes, un peu différents peut-être, mais ce sont les mêmes désirs, les mêmes exigences, la même envie, la même curiosité. Oui, à l'intérieur de soi, on ne change pas. Et on a encore des réactions, ou de petites filles, ou bien de jeunes femmes. Et,
il y a tout, en fait, en soi. Hein?
Oui,
on tous les âges, en fait. Hein?
Oui.
Et qu'on se soit fait fixer par la société à notre âge réel, biologique, c'est ça qui est un peu embêtant, finalement.
Oui, oui. En fait, on n'a pas d'âge. On avance dans la vie. C'est juste ça. C'est juste ça. Je trouve qu'on appuie trop sur ce fait-là. On n'est pas des vieux. Nous sommes des jeunes qui se prolongent.
Et qui... Oui, allez-y, Louis.
Mais, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une réaction qui je dirais qu'on entend de plus en plus. C'est pas la première fois que j'ai la chance de parler en public de ces études-là. Puis les premières fois, on en parlait moins. Puis de plus en plus, les gens nous interrompent et disent « Mais oui, il y a une attitude qui va avec l'âge, puis elle peut être positive ou négative. Ouais. » Je parlais un peu plus tôt aux bénévoles de l'Institut de gériatrie cette semaine. Et là, j'avais un discours que je croyais très savant en leur disant que le vieillissement, c'était parfois chronologiquement déterminé, biologiquement déterminé. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais il y a l'âge du cœur aussi. » Hein, l'âge du cœur détermine beaucoup plus le style de vie d'une personne. Et en science, on le sait depuis, je dirais, assez longtemps, en psychologie, surtout en psychologie sociale, les gens savent ça depuis les études qui datent des années 50, où on sait que même au niveau du fonctionnement intellectuel comme tel, l'attitude d'une personne va être extrêmement déterminante. Si j'entre dans une classe d'élèves au primaire et que je dis, voici, vous avez une dure épreuve de mathématiques à faire, ça va être un test très difficile. Bon, ben, les filles, là, je le sais, c'est dur les mathématiques, mais on va essayer quand même.
Ah, oui.
C'est certain que les filles vont avoir moins fort.
Ouais.
Et de la même façon, si j'entre dans une classe pour faire un test à des personnes de 65, 70 ans et je dis, j'ai un test de mémoire à vous faire faire, je le sais que vous êtes vieux et c'est difficile, mais on va essayer pareil, leur score va baisser. OK? Donc, et ça, c'est prouvé, là. Donc, c'est toute une question d'attitude. On aurait pu mettre le titre au lieu de dire « il n'y a pas d'âge pour apprendre », il y a une attitude pour apprendre, en fait. C'est ça qui est vrai.
Voilà.
C'est l'attitude qui va faire en sorte qu'on va retenir ou pas l'information qu'on veut retenir.
Qu'est-ce que ça vous a inspiré, M. Dansereau, quand on vous dit qu'il faut stimuler le cerveau, que la cognition, ça vient avec la stimulation? Sa conférence, en fait, nous dit qu'il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter de bouger. Je sais que les artistes, vous êtes des gens un peu à part, là, vous n'avez pas besoin de bouger, mais il ne faut pas arrêter de bouger pour les autres. Et il ne faut pas arrêter de stimuler le cerveau, peut-être en apprenant un texte, mais vous, comment?
Bien, c'est un peu comme vous dites, je me fais souvent envoyer l'image de « mais t'as l'air plus jeune que
ton âge.
Que mon âge et tout. » Et puisque je me... j'ai perdu le fil.
Regardez, moi, ce que je veux savoir, c'est que si on dit... Vous avez dit « chaque film me fait apprendre ». Qu'est-ce que vous apprenez avec un film?
C'est que chacun des films que j'ai fait...
Vous cinéma, vous êtes réalisateur depuis 50 ans. Qu'est-ce que vous apprenez dans un film?
Chaque film que j'ai fait était pour moi l'occasion d'apprendre quelque chose sur une réalité que je ne connaissais pas.
Okay.
Et j'étais obligé de l'apprendre assez pour arriver, c'était l'équivalent d'un doctorat, à faire une thèse, à la sortir. Puis là, les critiques s'empressaient de compléter mon éducation.
Okay.
Donc, j'ai passé ma vie à apprendre sans arrêt, et puis c'est pour ça que je ne saurais pas abandonner ce métier-là.
Parce que vous êtes scénariste, hein? C'est l'écriture qui fait de vous cet être-là qui apprend toujours.
Ben, je me considère comme un cinéaste, donc je fais un film, je fais un sujet que je travaille à mon scénario, que je travaille avec quelqu'un pour faire le scénario, ça... C'est pas tellement différent. C'est tout à coup, il y a une réalité qu'il faut saisir et comprendre assez pour dire à ce propos-là quelque chose de sensé, quelque chose de total aussi, qui n'est pas rien que du rationnel, qui est dans quelle émotion est là, qu'on tient compte de tous les facteurs. Alors, c'est un métier fabuleux pour apprendre tout le temps.
Est-ce que vous considérez tous les deux, à l'écoute d'un chercheur, que les chercheurs tiennent compte suffisamment des acquis qui viennent avec l'âge? Est-ce qu'on profite assez de la richesse que vous représentez, vous, qui avez plus de vécu qu'eux, en général, hein?
En tout cas, tout à l'heure, les deux courbes montraient bien qu'il y avait la courbe de la valorisation de la connaissance accumulée.
Voilà.
Ça me satisfait. Je suis bien content de ça.
Parce qu'en fait, parce que vous m'avez dit, M. Dansereau, qu'en vieillissant, on développe d'autres stratégies. On n'a pas que des déclins. Quand on vieillit, on acquiert des choses aussi.
C'est-à-dire que moi, c'était angoissant. Je trouve que vieillir, d'abord, il y a un discours là, contre lequel je veux m'ériger. Là. Souvent, le discours sur la vieillesse, c'est un discours de « il y a moyen de rester jeune en vieillissant ». Puis je déteste ça d'une certaine façon parce qu'il y a une négation du phénomène de la vieillesse là-dedans. La vieillesse a ses propres vitalités, mais elles ne sont pas du bord nécessairement de ce qui était jeune. Et de ce point de vue-là, moi, comme je portais un peu d'angoisse à mon propre vieillissement, j'essayais d'y trouver des choses, il y a quelqu'un qui m'a éclairé beaucoup, c'est un philosophe américain qui s'appelle Ken Wilber, et qui a parlé, je ne sais pas si vous connaissez, des trois yeux de la connaissance. Il disait...
Les trois yeux de la connaissance.
L'être humain est équipé de trois outils pour connaître. Il y a d'abord l'œil de chair, celui qui permet, à travers nos sens, qui nous permet d'appréhender le monde. Il y a l'œil de raison. Tout ce que notre cerveau peut produire comme outil. C'est ça qui nous donne la science, la philosophie. Pi, 3.1416, c'est un œil, c'est un produit du cerveau de la raison. Puis finalement, il y a l'œil de la contemplation. L'œil de la contemplation, c'est ce qui nous permet de trouver, d'apprécier le charme d'une femme, de trouver un enfant beau, de sentir la grandeur d'un paysage, aussi de s'ouvrir à la spiritualité. Et c'est pas Wilber qui dit ça, mais moi, j'ai commencé à penser que ça correspondait aussi à des âges de la vie. C'est-à-dire que plus jeune, c'est vraiment l'œil de chair qui domine. On est en train de conquérir
sur
le monde.
Surtout les hommes. Hein?
Aussi. Vers le milieu de la vie, alors que c'est tellement important de contrôler la réalité, d'exercer de l'influence dessus, c'est vraiment l'œil de raison qui domine. Et avec l'âge, tout à coup, s'éveille l'œil de la contemplation. Et je ne suis pas sûr, moi, que les travaux des scientifiques sont encore rendus à mesurer ça. Parce qu'on ne mesure pas uniquement la rapidité du transfert des informations d'un neurone à l'autre. On mesure la conscience. Et je ne pense pas que la science sache encore c'est quoi la conscience. Et c'est la conscience qui fait que tout à coup, on est ébloui par la grandeur d'un paysage. C'est la conscience qui fait que tout à coup, on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un Dieu ou pas? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que le deuil d'un enfant que je viens de vivre a un sens? Là-dessus, la dextérité mentale est impuissante.
Et ça, c'est les acquis de l'âge. Puis, la spiritualité n'intéresse pas tellement les jeunes qui ont 20 ans. Elle intéresse plus les personnes qui vieillissent davantage, non?
En tout cas, c'est certain que l'âge nous oblige à faire face à ça. Je veux pas, là, les deuils s'accumulent de toutes sortes. Puis la perspective, ça, Socrate disait, philosophie, c'est apprendre à mourir. Hein? Ben, l'âge, ça nous oblige à philosopher. Mm-hmm. Alors, on est obligé de se poser des questions, c'est immanquable. Puis, d'une certaine façon, la raison est impuissante. La raison toute seule, l'œil de raison, est impuissant pour répondre à ça. Ouais. C'est d'autres outils qui nous permettent de trouver un peu des éléments de, je ne dirais pas de vérité,
mais
de réconfort.
De réconfort.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Dansereau. C'est très juste. Je pense que le grand ennemi, quand on arrive à un certain âge, c'est le désintérêt. Le « à quoi bon ?» Le « oh, ça ne me concerne plus. » Que les jeunes fassent donc ce qu'ils veulent. Qu'on me fiche la paix. Je suis dans mes pantoufles et je suis bien. Non, il faut rester dans la vie, je pense. Et puis, si certaines choses peuvent nous échapper de cette vie très, très, très active, bon, on a le droit aussi à un petit peu de repos après avoir travaillé pendant nombre d'années. Il faut apprendre à réenchanter la vie, à s'émerveiller. J'ai en ce moment devant la porte chez moi un magnolia qui est en fleur. Il ne se passe pas une journée sans que je remercie le ciel d'avoir fait fleurir cet arbre. Je pense que ça nous nourrit. Quand on est plus jeune, je ne pense pas que la spiritualité, ce soit le propre de l'âge. C'est comme être attentif à la poésie et tout ça. À 20 ans, on peut l'être tout aussi bien. Simplement, ça s'affine. Ouais. Et puis, il y a une urgence à essayer de mieux comprendre, peut-être, à se poser plus de questions, un peu plus en profondeur. Bon. Mais prendre le temps de, puisqu'on court un peu moins vite, profiter de ce qu'on a sous la main pour en profiter pleinement et savoir dire merci de tous ces cadeaux-là. Hein? Est-ce que ça vous convient?
Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que je me dis...
Demandez l'approbation de la science ou de l'univers?
Mais je reviendrai là-dessus, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai qu'on imagine, en tout cas on espère qu'il arrive un temps où on a peut-être plus le temps de profiter de certaines choses puis il y a moins d'impératifs. Puis ça, vous dites, bon, peut-être qu'avec un certain âge, on est plus spirituel, puis on a envie de réfléchir un peu plus sur des questions profondes, mais les ados, ça peut être très spirituel aussi. Hein? Un jeune pré-ado
si
qui
j'ai
demande
laissé entendre
pourquoi
que
Dieu existe.
S'il y avait que les gens âgés qui avaient cessé la spiritualité, je me suis bien mal exprimé.
Non, c'est Carole qui a dit ça. C'est la jeune qui a dit ça.
C'est Mme Vallière qui...
C'est moi qui pense que souvent la spiritualité, vous avez dit, j'ai pris dans vos mots, en fait, j'ai interprété, vous avez dit qu'en avançant, la philosophie, c'était la question vers la mort, et donc le grand âge, c'est la mort qui nous fait face, et que les désirs, le besoin de religion, c'est la mort, la faire face à la mort qui le crée ou qui le...
Je ne veux pas vous interrompre, mais vous me pressez un peu. Moi, je trouve que c'est la plus grande aventure de la vie.
La mort.
Apprendre à mourir.
Ah, d'accord.
Apprendre le phénomène vivant et vital que c'est. Parce que nous autres, c'est sûr, tout l'instinct de la vie qui veut vivre tout le temps, c'est qu'on a peur
quand on
de
dit
ça,
qu'il n'y a pas d'âge pas pour regarder, apprendre.
On veut absolument pas regarder ça. Mais il y a moyen de jeter là-dessus un regard complètement différent. Moi, je trouve que l'âge nous fait débarquer sur une Amérique qui n'est pas encore découverte. Hein. Pour chacun d'entre nous, on est le Christophe Colomb qui arrive face à ce continent incroyable qu'il faut arpenter, découvrir, et puis qu'il faut coloniser d'une certaine façon, civiliser. Comment je peux trouver du sens, non seulement à ma mort, mais à la mort des êtres chers autour de moi?
Oui, moi je pense que ce qui m'intéresse là en ce moment, c'est de me dire, je serai vivante jusqu'au dernier instant. Et je veux être bien vivante jusqu'au dernier instant. Et avec Marie-Louise Leblanc, on a fait récemment ici même une très belle lecture de dernier fragment d'un long voyage.
Prenez, vous avez de l'eau à côté de vous. Prenez de l'eau. Quand vous avez fait ça, c'était, Dominique, c'était il n'y a pas longtemps. Hein.
Il y a un mois. Oui, il y a à peu près un mois. Et c'est ça que ça nous apprend. C'est un livre de Christiane Singer que je vous conseille de lire.
Comment ça s'appelle ?
Dernier fragment d'un long voyage. Et ça nous apprend à être vivant jusqu'au bout. Alors, pensez à la mort. J'y pense pas tous les jours, j'ai pas envie d'y penser tous les jours, mais à être aussi vivante que possible tous les jours, oui, par exemple. Puis je trouve que c'est un beau programme.
Alors, mais ça, je pense que ça résume assez bien l'effort qu'on essaie de faire. Parce que on a parfois des critiques un peu plus virulentes que ce que j'ai entendu tantôt.
Doux, hein?
Oui, il y a des fois des gens qui, surtout quand on est un peu jeune et qu'on véhicule ce genre de nouvelles-là, on se fait souvent confronter. Je me rappelle une année où j'avais eu la chance d'être invité à Paris pour présenter des résultats comme ça, et il y avait un éthicien, directeur de tous les comités d'éthique, de tous les hôpitaux, de tous les... Bon, pour ceux qui connaissent un peu le système là-bas. Et le monsieur m'attendait, comme on dit chez nous, avec une brique et un fanal. Parce que lui, il voyait dans mon propos quelque chose de complètement anti-éthique. Mais laissez donc les vieux vieillir. C'est ce qu'il voulait me dire, en fait. Aussi simple que ça, il m'a dit, mais est-ce qu'on n'a pas le droit de vieillir à notre façon? C'est quoi votre propos? Et lui, il voyait dans ce débat scientifique-là d'essayer, il voyait de l'anti-vieillesse, la tentative de découvrir une fontaine de jouvence.
Alors, rassurez-nous tout de suite. C'est pas de l'anti-vieillesse.
Non, pas du tout. En fait, au contraire. L'idée, c'est de maximiser le potentiel qu'on a et de ne pas être passif. L'idée, c'est la cognition, comme je l'ai présentée ici. Vous parlez souvent de faut vouloir apprendre, la passion est là-dedans, l'émotion et ça. Mais moi, quand je donne mon cours de psychologie cognitive, je dis à mes étudiants, vous allez apprendre ici comment fonctionne votre cerveau quand on traite de l'information qui ne nous intéresse pas. Parce que l'attention, c'est ça. Si je vous raconte, c'est quoi la vigilance mentale? Rester concentré sur de l'information. Quand quelque chose vous fascine et vous passionne, vous n'y pensez même pas.
Ouais.
Il n'y a aucun effort mental. Vous êtes en train de boire, de lire, de voir un film. Il n'y a aucun effort mental là-dedans. L'effort mental, il est nécessaire pour faire quelque chose, pour traiter de l'information nécessaire, mais qu'on aime moins.
Ouais.
Vos rapports d'impôts, là, si ce n'est pas fait encore.
C'est fini, hein? Ça.
Donc,
allez.
ça, c'est cognitif. C'est du traitement de l'information. Et le message qu'on essaie de véhiculer, c'est le message scientifique qui était véhiculé dans les années 80-90 est plus ou moins faux. Parce que ce message-là, c'était après 50 ans, schlock.
Le déclin.
Alors là, on se rend compte que non, il y a des facteurs modulateurs, il y a de la facteurs de santé. Le cerveau est un organe dont on peut prendre soin, comme vous prenez soin de vos pieds. Si je vous disais aujourd'hui, j'ai inventé un soulier pour personnes qui ont mal aux pieds, je ne dis pas qu'ils sont vieilles, là. OK? Mm-hmm. Tous ceux qui ont mal aux pieds ont besoin de ces chaussures-là, ça fait du bien. C'est génial.
Personne ne se poserait des questions.
C'est
on irait acheter les souliers.
C'est un peu, dans le fond, c'est comment je peux tirer profit de ma mécanique cérébrale pour justement jouir plus longtemps de ses fonctions. Mieux lire, mieux écouter la télé, mieux me souvenir d'un film qui me passionne. Et je vous dis que ces petits trucs-là, des fois, qui sont en apparence tout bêtes, peuvent être drôlement utiles dans certaines situations.
Oui, puis c'est une souffrance quand tu te couches.
Pardon, un à la fois. Madame Fauché, allez-y.
Non, je dois dire que j'ai trouvé très intéressant de savoir qu'on a entre nos propres mains la possibilité d'améliorer notre sort. Plutôt que de rester dans un fauteuil, bien assis, tranquille, à regarder la télévision, qui est idiote la plupart du temps, aller marcher, ça oui, et je vais faire ça.
Bon.
Tant mieux.
Mais Monsieur Dansereau.
Allez-y, Monsieur Dansereau.
Oui, on sait.
Votre réaction, non, vous alliez répondre aussi. Donc, c'est parce que quand tout ce que les chercheurs disent, est-ce que ça peut vous servir? Sincèrement, dans votre vie à vous, là, savoir que stimuler la cognition, c'est bon pour vos neurones, est-ce que ça va vous aider à...
Bien oui, c'est des nouvelles très encourageantes, puis c'était très optimiste, tout ce qu'il montrait là. Fait. Puis là, ce que j'avais le goût de dire, j'avais une sorte d'interférence dans ma propre tête, là, c'était la... C'est naturel que la vie veuille vivre. Mm. C'est essentiel. Fait que donc, moi, j'ai pas un regard de censure sur le fait que les gens veulent vivre puis veulent rester jeunes. C'est pas ça. Ce que je n'aime pas, c'est que quand on propose aux gens âgés d'essayer d'être jeunes, de les couper de leur propre vitalité.
Donc, faire semblant. Mais quand vous étiez jeune, Mme Fauché, vous aviez 60 ans et vous avez décidé que vous feriez de la mise en scène. 60 ans, c'est l'âge où beaucoup de personnes commencent à penser à leur retraite. Hein? Il leur reste 5 ans. Vous commencez une nouvelle carrière. Mettez-nous dans vos souliers. Comment on pense qu'on va apprendre à 60 ans à faire de la mise en scène?
Mais on ne pense pas. C'est ça qui est bien. C'est que la vie pense pour nous. C'est que moi, le metteur en scène à la maison, c'est Jean Fauché, c'est mon mari qui a fait des tas de très beaux téléthéâtres à Radio-Canada. Donc, des tas de mises en scène aussi au théâtre. Donc, il n'avait jamais été question que je fasse de la mise en scène jusqu'au moment où on m'en a proposé. Mais quand on est vivant, quand on est jeune, à 60 ans, et qu'on ne se pose pas la question « Ah oui, mais j'ai plus l'âge, gna 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 », on vous dit « Est-ce que vous voudriez monter au 4 sous Elvire Jouvet 40 ?» Vous vous dites « Attendez, laissez-moi réfléchir 2 secondes. » Et puis vous reprenez le téléphone et vous dites « Oui, tout de suite. » Parce que vous sentez très bien que la vie s'organise de manière à vous proposer là quelque chose qui correspond exactement à ce que vous êtes capable de faire et de bien faire. Et que ça parle de Louis Jouvet, ça parle du théâtre, ça parle de tout ce que vous aimez. Et c'était fait pour moi. J'en étais profondément consciente et j'ai dit oui. Puis après, je me suis dit, ben, je vais me débrouiller avec ça.
Quand vous avez appris la danse à 62 ans?
Oh, ça, moi, j'ai eu horreur de ça. Oui, je trouvais... Ça a été une épreuve. Il y a très loin de la tête au bout des pieds. C'est vraiment. Et je n'ai jamais fait de danse et ça m'ennuyait. D'un autre côté, ça m'amusait aussi. Puis je me suis dit, c'est quand même rigolo à 62 ans de lever la jambe et de faire les claquettes. Et je l'ai fait pas mal du tout. Oui, mais ça n'a pas été un grand moment dans mon existence.
Je dois dire. Est-ce que vous, dans la salle, vous avez des expériences à partager avec nous? Ouais.
Puis je pense que la plus grande motivation, c'est de ne pas se laisser absorber par ce qu'on se fait dire. Là. Vous avez tel âge, vous êtes ci, vous êtes ça. Mm-hmm. Tantôt, vous avez dit, si je dis aux personnes que vous allez passer un test, c'est sûr que les filles vont moins bien réussir. Mais je pense que c'est le pire ennemi qu'il y a actuellement dans la société nord-américaine. Mm. C'est ça. Parce que quand vous dites que vous avez eu le désir de la mise en scène, moi aussi, je ne crois pas que c'est l'âge, qu'à un certain âge, on aurait comme une date d'expiration pour tel genre de... C'est le genre d'activité pour laquelle on a une passion.
Oui.
Moi, je partage ça aussi. La vitalité, c'est quelque chose qui est unique et puis qu'on conserve, je pense, à vitalité.
Et comme le sujet de notre rencontre ce soir, c'est « Il n'y a pas d'âge pour apprendre », l'attitude et la censure de la société limitent notre capacité d'apprentissage.
Mais c'est que l'énoncé « Il n'y a pas d'âge pour apprendre » contient ce problème-là.
Tout à fait. On est en vie, on apprend si on a envie d'apprendre et on peut apprendre quand on a envie d'apprendre. Mais il y a peut-être des trucs qui font que, oui, en s'entretenant physiquement pour 20% d'oxygène que ça bouffe, c'est beaucoup. Hein. ça m'a frappé, ça.
Monsieur le scénariste insiste, une contemplation plus profonde dès la...
Si les gens ne veulent pas se lever, pour les gens qui veulent entendre plus loin, merci de me le faire remarquer parce que je pensais que tout le monde entendait. Je vais reprendre les propos de la personne parce que sinon, tout le monde, il y a des gens qui ne parleront pas, ils ne veulent pas se lever. Ils sont paresseux à cet âge-là, vous savez.
La mémoire à la joie commence dans les rencontres avec les archétypes, les choses primordiales. Et c'est
Monsieur, allez au micro. Si vous avez une idée à développer, allez-y quand même au micro. Vous ne voulez pas? Parce que c'est vrai que les gens ne pourront pas comprendre, je comprends ça.
Oui, j'insiste sur le sujet de l'apprentissage de ce qu'on
connaît déjà.
On connaît déjà. Et c'est l'approfondissement l'impact qu'on a reçu dans notre vie.
Vous n'êtes pas en train de dire qu'on n'apprend pas des choses nouvelles, là?
C'est une façon différente d'apprendre. Et ce n'est pas la chose soudaine, la chose immédiate, c'est une chose de l'âme. Par exemple, James Hillman, un autre Américain qui a écrit La force du caractère, que c'est un livre vraiment d'autres qualités, il insiste que pourquoi est-ce que la vie est biologique finit dans la quarantaine, la cinquantaine, et la vie humaine continue. C'est pour le développement du vrai caractère personnel et pour les expériences de l'âme qui commence à penser sérieusement sur le sujet de la mort. L'âme aime le sujet de la mort.
Oui.
Les cultures anciennes, ça c'est bien connu. L'âme aime le sujet de la mort. Et alors, ce sont les archétypes. Par exemple, il ne faudrait pas faire de nouvelles expériences, mais de se tenir dans les expériences qui nous ont vraiment touchés pour les approfondir. Et je crois que ça nous donne une philosophie personnelle de la vie, comme monsieur le scénariste insiste, et madame aussi pratique. Mm-hmm, non mm-hmm. Et c'est la dimension de l'âme. J'insiste sur ce sujet. Non
Merci. Alors, je vais demander à monsieur Dansereau de réagir.
Bien, ça va dans le même sens. Mm-hmm. C'est, moi, j'ai l'impression que chaque jour, la vie me pose des défis qui m'obligent à apprendre.
Alors, c'est des choses nouvelles.
Les choses que j'ai à apprendre, c'est pas nécessairement les choses qui exigent la dextérité mentale dont j'avais besoin quand j'avais 35 ans pour mémoriser des méthodes de travail ou des choses comme ça. Des fois, la chose que j'ai à apprendre est une chose qui peut être un défi extraordinairement difficile de faire face, de trouver une philosophie pour faire face à tel événement. Je vais vous faire un aveu qui est encore plus simple et que tout le monde va comprendre. Tout à coup, je me suis réveillé, moi, autour de 50 ans, pour savoir que je ne savais rien de ce que c'était qu'aimer.
Aimer?
Oui.
À 50 ans?
C'est là que je m'en suis aperçu. Avant ça, je ne m'en rendais pas compte. Je pensais que je l'aimais, mais ce n'était pas vrai. Je me suis rendu compte que j'étais bien trop centré sur moi-même. Fait que tout à coup, là, c'est devenu comme vraiment un mandat personnel, ouais. Pas une crise pour moi, de dire... Attention, mon garçon, dans les années qui viennent, tu vas essayer d'apprendre quelque chose de vrai et de concret là-dessus, que toi-même, tu vas juger solide. Et puis, c'est un apprentissage que, je ne sais pas si la dextérité mentale peut aider beaucoup là-dessus.
Non, mais c'est courageux, en tout cas. C'est courageux de se dire ça.
C'est un sacré défi. Hein?
Mais oui.
Est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'à 75 ans, on puisse se mettre à apprendre du chinois, par exemple?
Tout à fait.
Oui?
Oui, je pense que oui. Vous l'avez dit plus tôt, c'est une question de volonté. Il y a d'ailleurs au moins deux bouquins qui sont sortis l'année dernière ou l'autre d'avant sur des artistes tardivement découverts, des gens qui n'avaient aucun passé artistique et qui ont appris un art nouveau. On a une Canadienne, d'ailleurs, je crois que c'est Rosemée Bélanger. Rosemée, il me semble son prénom, qui a fait des œuvres d'art incroyables, qui a commencé apparemment... très tard dans sa vie à faire de la sculpture. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les vrais détails, je n'ai pas retenu à quel âge, mais elle avait passé la soixantaine quand elle a commencé, et c'est maintenant quelqu'un d'extrêmement reconnu dans son art. Moi, je pense que c'est une question de volonté,
c'est
puis
bizarre,
ça peut juste vous faire du bien.
Le côté artistique, se mettre à la peinture ou à la sculpture, à un art, ça me paraît possible.
Mais apprendre une
apprendre, langue... Apprendre, apprendre. apprendre des mathématiques très approfondies ou bien une langue étrangère compliquée, difficile. Il me semble que c'est dans un autre domaine, ça.
Ouais. J'ai une grand-mère d'une amie qui me disait qu'elle a commencé les maths à 75 ans. Elle est retournée à l'université faire des maths.
Puis dans le fond, c'est vraiment ce qui nous intéresse dans la vie.
Je lui ai demandé pourquoi, parce que moi, les maths, en tout cas. Mais en science, on n'aime pas tous les maths quand même. C'est un outil. Et ça la fascinait. Il y a des choses qui la fascinaient. Les équations la fascinaient. C'est abstrait, les mathématiques. Pour elle, c'était un langage qu'elle n'avait jamais maîtrisé. Peut-être parce que quand elle était jeune, elle avait des obligations familiales qui l'empêchaient de continuer ses études et tout ça. Et là, tout est fini. Ses grands-enfants étant élevés, elle me dit, moi, je m'en vais étudier les maths avant de mourir.
Mais c'est ça. Mais au départ, il y a la fascination. Oui. Ah, je pense que c'est le grand moteur, ça.
Mais ça, c'est vrai. Puis je voulais le mentionner. Après, je vous laisse la parole, monsieur. Oui, mais je pense que ça fait longtemps que je veux mentionner ça. C'est
pas long.
C'est vrai qu'il y a des gens vieux, vous me permettez l'expression, qui ont de l'air jeunes. Mais il y a des gens jeunes qui ont de l'air vieux. Je veux dire, c'est une question de fascination, vous le dites. Il y en a qui sont jamais fascinés, mais il y en a qui sont fascinés toute leur vie. Puis je pense que c'est un petit peu de l'âgisme de mettre un âge chronologique sur une capacité d'apprendre. Puis je pense que c'est un peu le message. Il y a quelqu'un qui a dit le titre de la conférence, c'est un petit peu, oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, ça dit juste que...
C'est l'attitude qui compte.
Oui, c'est l'attitude, beaucoup plus.
Monsieur, à vous la parole.
De vous interrompre.
Non,
de
je parler. Vous en prie, je laisse faire.
Moi, une chose qui me paraît un peu assez importante, mettons, je ne sais pas si ma référence est bonne, mais je crois à un moment donné, Jean-Jacques Rousseau disait que le progrès devait aller dans le sens plus de la déculpabilisation que du côté du progrès. Puis là, me semble, dans la question de la question de l'âge, il y a peut-être un certain sentiment de culpabilité qu'on vit avec à partir de la naissance, là. Puis, c'est comme pour essayer de récupérer le sentiment un sentiment de culpabilité. C'est comme essayer de compenser une faute, mettons, des fois, comme le...
Comme si on faisait en sorte que vieillir, c'était être coupable d'être âgé.
C'était coupable, puis qu'il fallait comme se racheter ou quelque chose
la
de
la société,
même.
C'est vrai qu'avec le discours social, que ça va coûter plus cher, que les gens vont être plus malades,
puis
donc
la,
on met
la,
des
la
fardeaux.
Publicité, la publicité, elle valorise toute la jeunesse, tout ça. C'est comme s'il y aurait seulement eux autres qui ont le droit de vivre, d'être heureux, tout ça.
Une réaction à ça, mon panel?
Culpabilité?
Oui.
C'est un mot dont j'ai horreur. À bannir du vocabulaire.
Mais peut-être
coupable
c'est
de quoi
ça,
on est
problème,
coupable.
C'est un refus. Là.
On serait coupable de quoi de vivre
voilà.
Ben, c'est pas mon choix d'avoir de cette culpabilité là. C'est de l'avoir en là. C'est peut-être de ma faute. Là. C'est peut-être moi qui est coupable de me sentir coupable. Là, ça va.
C'est certain, en tout cas, que l'âgisme, ça existe. Puis ça existe même chez les personnes âgées. Hein. Ça a tendance à créer une sorte de rejet. Là. Puis les personnes qui subissent peuvent l'expérimenter comme une sorte de culpabilité à vaincre.
Monsieur, s'il vous plaît.
Oui, j'ai quelques idées sur le sujet, parce que moi aussi, je me posais des questions. Qu'est-ce que c'était que vieillir ou qu'est-ce que c'était d'être heureux en vieillissant? Et j'ai beaucoup de conversations avec une copine, et là, j'exprime, je lui disais tantôt, pas mon mécontentement, mais disons, mes appréhensions, parce que je ne me reconnais pas dans leur discours, je ne me reconnais pas dans leur interrogation. J'ai dit, ce qui est dur, parce que je lui disais tantôt aussi, c'est très dur vieillir, c'est que cette souffrance, il y a deux contradictions, la souffrance de se sentir jeune et de ne pas être à leur hauteur, aptitude et attitude. Ça, c'est une contradiction, et c'est, pour moi, c'est une grande souffrance. Ben, pour moi, je crois que pour toutes les gens, mais je pense qu'on l'étouffe parce qu'on dit on doit être comme ceci, on doit faire comme ceci, l'exercice. Non, c'est pas du tout ça vieillir pour moi, pour tous les autres. S'ils veulent appréhender la vie, c'est un rapport à soi-même.
Mais c'est-à-dire, quand on vous dit qu'on peut apprendre à votre âge...
Ce n'est pas... Je me dis, moi, je ne veux rien savoir.
Mais pourquoi?
Ce n'est pas ça vieillir. Apprendre ou ne pas apprendre. Vieillir, c'est d'apprendre à être conscience de soi-même, d'être conscience que tu peux apprendre, tu peux faire ci, mais ce n'est pas ces préoccupations-là qui mettent dans notre tête là, avec la publicité. Non, vieillir, c'est un phénomène normal et heureux même. Moi, j'ai dit que vieillir, c'est une solution à la mort.
Oui, parce que... Mais ça ne vous intéresse pas, vous, d'apprendre, de savoir qu'on peut apprendre à n'importe quel âge?
Pour moi, ce n'est pas une problématique du vieillissement, de savoir qu'on peut apprendre ou ne pas apprendre. La problématique du vieillissement, c'est de savoir vieillir, de savoir être heureux avec ce qu'on est. C'est ce rapport à soi-même, pas ce rapport à la connaissance, le rapport à... Si c'est valorisant, s'il faut faire ces choses-là, même de l'exercice, c'est même de la difficulté, moi, avec ma lasagne, vous voyez? Okay. Mais c'est ce rapport à soi-même qui rend heureux. Puis même, on dit souvent, à 40 ans, on découvre le bonheur. Oui, quand j'avais 20 ans, moi, puis tu sais, hein, je disais, c'est pas possible. Okay. Mais je me rends compte qu'à 40 ans, naturellement, à tout le monde, on revient à nous-mêmes. Non plus comparer à avoir la plus belle voiture ou la plus belle robe ou à sa voisine, mais on découvre nos propres valeurs, nos propres bonheurs. Bonheur, il est intérieur de nous, et non pas dans cette... Si c'est nécessaire, ces recherches qu'on en fait, c'est nécessaire, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est ce rapport à soi-même. Est-ce que le rapport à soi-même, c'est de se convaincre qu'on peut apprendre ou qu'on vieillit? Bon, il y a une chose aussi. Bon, non, c'est les deux choses que je voulais. C'est les deux choses que je voulais. L'essentiel, c'est vieillir, c'est le rapport à soi. Qu'on vieillit gros, gras, pas d'exercice, c'est vrai que c'est nécessaire pour la santé mentale, mais faire tout le nécessaire pour que soi-même, on se sente bien dans notre peau. C'est là. Vieillir, ça, c'est normal. Il faut accepter ça. Mm-hmm. Enfin, moi, la souffrance de vieillir, ça, c'est que... Ah oui, on me disait, tu as de l'expérience, toi. Et moi, il demande moi de l'expérience. J'en ai pas plus que lui. J'en ai plus à 20 ans que quand j'en avais à 15, ou j'en ai plus à 40. Mais j'en ai pas plus à 40 que celui, tu sais, là, c'est-à-dire, on a l'expérience de notre âge, pas plus. On n'a pas l'expérience de notre âge qu'on n'a pas. On dit, là. Puis, je me disais, oh, ça, c'est mon téléphone, ça. Ils me disent de me taire. Ah ben, tu parles, toi, mon patron me dit de me taire.
On va vous envoyer répondre.
Là, je voulais dire quelque chose d'essentiel. Pour moi, d'essentiel dans le sens que toute personne découvre ces choses-là. Mais peut-être n'est pas attentive. Parce qu'il y a des personnes qui ont dit tantôt, là, écoutez la vie. Écoutez la vie. C'est madame qui a dit ça. Si, c'est ça moins que ça. C'est écouter. Mais, oui,
mais faire un peu attention aux autres quand même, pas seulement à son petit intérieur à soi.
Si, mais tant qu'on
fait attention. Faut pas se limiter.
Oui, mais tant. Ouais. Mais pensez à
pardon?
Nous.
Pardon?
Non, mais c'est bien qu'elle me complète. Parce qu'on ne peut pas être, à soi si on n'est pas aux autres. On est heureux que par le partage, que par un étant. J'ai compris votre.
On est d'accord.
Bon. Mais je termine ceci. Le vieillissement, je disais, je termine la phrase, tu vois, que j'avais commencé tantôt, là, en termes d'expérience. Là. Moi, j'ai commencé à vieillir, j'ai pris conscience que tout ce que je ne pouvais pas faire, tout ce que je ne pouvais pas me permettre, là, c'est ça, vieillir. C'est là que j'ai pris conscience de la valeur, disons, d'une belle jeune femme. Tu sais, parce que je ne peux plus la conquérir. Là, je me suis rendu compte que j'étais vieux.
Mais ça c'est la souffrance. Ça a duré longtemps.
Bon, oui, je termine.
Merci, monsieur.
Mais vous comprenez mon appréhension.
Je crois que oui.
Je vais faire répondre, M. Bérère.
Beaucoup d'informations.
La parole, là.
Merci pour votre intervention. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que ça, c'est un peu le vieillissement, c'est un peu personnel aussi. Puis
oui,
c'est
bien
peut-être
sûr.
Plus une question d'équilibre de
c'est
soi.
C'est ce que vous dites d'abord. Hein? Quand le vieillissement est hétérogène, c'est ça que vous dites.
Chacun
hein?
vieillit à sa façon, mais je voudrais juste ajouter que, c'est des propos importants, parfois un peu philosophique et un peu existentiel. Mais la science n'est pas toujours loin, hein, quand on réfléchit beaucoup et quand on observe beaucoup aussi. Puis, il y a des faits scientifiques qui vont dans le sens de ce que vous dites, d'ailleurs. J'ajouterais même que quelqu'un qui vieillit bien avec lui-même peut-être vieillit plus longtemps. Et là, je parle de vraie vieillesse chronologique. Mm-hmm. Je ne sais pas si Dr. Ferland en parlera la semaine prochaine de l'alimentation des pays asiatiques, par exemple. Je ne sais pas s'il en sera question, mais on sait que, par exemple, les Japonais qui vieillissent si vieux, à peu près comme les Canadiens, hein, par exemple, on est bien placé aussi au monde, on est dans le palmarès des vieux très bien placés, mettent beaucoup plus d'emphase à l'expérience associée à l'âge mûr. Puis les personnes âgées sont plus valorisées, ont plus de réseaux sociaux, se tiennent plus entre elles. Étonnamment, ils vieillissent plus longtemps aussi que d'autres populations sur la planète.
Fait
que peut-être que votre côté, là, ce que vous apportez, là, le bien-être, va peut-être avoir un effet sur la biologie aussi. Là. On est bien, on est heureux, qu'on veut vivre.
C'est une bataille que nous allons vivre. Par exemple, en ce moment, en France, les 50 ans et plus, et les syndicats, on est en train de développer un discours pour revaloriser l'expérience. Et juste avant de vous passer la parole, monsieur, parce que je ne vous oublie pas, mais ma fille m'a demandé, j'ai une fille qui a 19 ans, elle m'a dit, demande donc à Mme Fauché, là, si elle... Qu'est-ce qu'elle dirait aux jeunes, elle, qu'est-ce que c'est vieillir? Parce que les jeunes ne savent pas, parce que les personnes plus âgées, on ne leur demande pas. Ils n'ont pas la place pour parler aux jeunes, ils n'ont pas le... Puis une forme d'apprentissage, c'est l'enseignement. Donc, qu'est-ce que vous enseigneriez tous les deux aux jeunes? Qu'est-ce que vous leur diriez aux jeunes, ce que c'est vieillir?
Je dirais que je ne sais pas ce que c'est. C'est un jour après l'autre. C'est plein de surprises, une vie. C'est être ouvert à ce qui se présente, avoir un certain jugement de ce qui a l'air d'être bon, de ce qui a l'air d'être moins bon, de faire confiance, de s'émerveiller encore. Mais qu'est-ce que c'est vieillir? Je sais pas, c'est une question que je ne me suis jamais posée.
Je vais lui dire ça.
Non,
c'est... Dans ce rôle, vous abondez.
Ça continue. C'est, j'aime bien ce côté, là, le fleuve qui coule, la rivière qui coule. On est là et on avance. Mais on ne descend pas, on ne s'écroule pas. Est-ce qu'on monte? On essaye.
J'aime moins l'analogie de la rivière parce que la rivière coule, justement. Elle s'en va par en bas. Mais le vin se bonifie, lui, par exemple, en vieillissant. C'est toujours plus agréable.
Je bois plus d'eau que de vin, c'est pour
ça. Oui, c'est ça, peut-être. Mais bon, mais vous semblez dire, bon, je ne sais pas c'est quoi vieillir, il reste que le temps fait son œuvre, puis les gens accumulent des connaissances. Moi,
oui,
c'est ce que je trouve.
Oui.
Je trouve ça fascinant qu'une société qui tienne tant à la recherche, la science des connaissances, mette si peu d'emphase sur l'âge mûr, l'âge sage. J'imagine que si on vous demande de venir faire de la mise en scène d'une pièce, c'est parce que vous avez fait vos armes, comme on pourrait dire. Moi, quand un étudiant vient me voir, et ce n'est pas une blague, je le dis pour vrai à chaque fois, un étudiant vient me voir pour faire une thèse de doctorat dans mon laboratoire, je lui dis toujours, mais pourquoi tu fais ça? Va donc faire ton doctorat avec un prof qui a diplômé déjà. Parce qu'il y en a un, là, dans le laboratoire d'à côté, il a fait 25 thèses de doctorat dans sa vie. Lui, tout le monde, là, sait qu'ils vont réussir dans leur vie quand ils travaillent avec lui. Pourquoi tu viens voir un jeune laboratoire? Et je le pense pour vrai. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis allé avec des gens d'expérience faire mes armes. Et je pense que la société nord-américaine, en général, peut-être que j'abuse un peu, mais je trouve va pas capitaliser sur ces connaissances-là assez. Puis c'est très dommage, parce que ça pourrait être perdu si on le fait pas.
Monsieur, à vous.
Bon, Monsieur Dansrup connaît très bien.
Oui.
Guerrier Pi, Roméo, photographe.
Ah, oui. Oui.
Membre de la Cinémathèque.
Absolument.
Moi, j'ai 90 ans. J'ai jamais fait de sport, aucun.
Vous avez de l'air en forme quand même.
Tire la langue, là.
J'ai beaucoup voyagé et je suis rendu à 90 ans, je ne sais pas pourquoi. Je ne pensais jamais que je me rendrais là. Et j'ai travaillé toute ma vie et j'ai voyagé beaucoup. Et maintenant, je me demande qu'est-ce qui va arriver dans le futur.
Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, non, comment vous réagissez?
J'en doute pas.
Vous croyez que c'est vrai?
Comment?
Quand on dit qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre.
Non, il n'y en a pas. Vous avez raison. Mais j'essaie d'apprendre. J'ai été marié 64 ans. Ma femme est morte en 2006. Puis là, je me suis trouvé une nouvelle conjointe pour finir mes jours. Et puis...
Donc, c'est une question d'attitude, parce qu'on met beaucoup, permettez-moi d'aller vers M. Bérer, on met souvent l'emphase sur l'exercice physique, et nous, on comprend souvent exercice physique. Les photos qu'il nous a montrées, c'est des gens qui font du tapis, puis des choses comme ça, mais en réalité, M. Bérer, c'est l'activité physique dont il faut parler. Rester actif. Il est allé en voyage toute sa vie. Il a marché un peu, peut-être.
J'imagine, en voyage, on marche énormément, puis on traîne des bagages lourds.
Comme photographe, traîner des bagages.
Non, j'ai été au Vietnam durant la guerre. J'ai fait la révolution avec Castro quand j'étais à Radio-Canada. Et puis, J'ai été partout, personne ne veut de moi, je suis encore vivant.
J'aurais le goût de poser une question à M. Bérême. Est-ce qu'il y a un facteur d'hérédité qui joue?
Sûrement. Je vous dirais, je n'irai pas trop loin là-dedans parce que ce n'est vraiment pas mon champ d'expertise, mais c'est certain que le futur va nous en dire beaucoup parce que c'est, les gens s'y attardent là, vraiment beaucoup, là, au tout le facteur génétique. Mais il ne faut jamais oublier une chose. La médecine, en général, est très... c'est peut-être moins vrai maintenant, mais il y a eu un dogme génétique quand même. Hein. Récemment, là, il y a peut-être 10-15 ans, où on disait toujours « t'as le gène, t'as la maladie », mais il ne faut pas oublier qu'il y a le phénotype. Ce n'est pas parce que t'as le gène que tu développes la maladie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Donc, oui, sûrement, il y a un facteur. Pour développer la démence, la maladie d'Alzheimer, entre autres, il faut avoir un gène malchanceux. Mais il y a des gens qui l'ont, ce gène-là, et qui ne vont pas développer la maladie.
Voilà, c'est ça.
Donc,
c'est...
il y a d'autres choses. Voilà, il y a une autre... C'est plus compliqué qu'un simple gène, j'aurais envie de dire. Mais certainement qu'il faut, il faut s'y attarder.
Mais ça peut jouer dans le fait que M. Gariepy est en forme à 90 ans. Il peut y avoir un facteur...
C'est exactement ce à quoi j'ai pensé quand il nous a dit ça. J'étais bien content qu'on dise qu'il est sûrement actif quand même. Mais oui, c'est sûr, il ne faut pas se le cacher. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer de déjouer le sort non plus, puis essayer de mettre les chances de notre côté. Nous, dans le fond, c'est tout ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver les chances qu'il faut mettre de notre côté.
Voilà, Madame Fauché.
Mais chez M. Gariepy, il m'a l'air d'avoir une espèce d'état de grâce. Un photographe est intéressé par les autres, est intéressé par la vie, à capter la vie dans tous ses instants. 64 ans après son premier mariage, il perd sa femme. Il aurait pu se laisser écrouler, complètement anéantir. Non, il refait sa vie. Ce soir, il aurait pu être dans ses pantoufles, dans son fauteuil. Non, il est là, il descend les escaliers, il vient parler. Il y a une volonté d'être dans la vie, d'agir, d'être... Hein? Bravo, vous êtes formidable.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Non, je vous remercie.
Alors, merci beaucoup, monsieur. On vous écoute, monsieur.
J'apprécie beaucoup ce que Mme Fauché a dit tantôt par rapport au phénomène de notre âge. C'est-à-dire, c'est d'abord une question d'attitude mentale, le phénomène de la vieillesse ou pas. J'ai encore le goût de m'émerveiller devant des belles choses que je vois quand je voyage ou encore quand je marche sur la rue. Quand je vois un enfant dans un centre d'achat, puis que je le vois qui est traîné par sa mère, qui a une belle face, j'ai encore le goût de le regarder. J'ai aussi le goût de découvrir, puis de trouver fascinant des choses encore à découvrir, entre autres développer un nouveau logiciel pour un partenaire, etc. Ça aussi, ça fait partie de l'attitude mentale. Je pense qu'on reste jeune tant et aussi longtemps que là-dedans, ça se passe bien. Parce que, bien sûr, comme disait M. Bérard tantôt, on veut se garder en forme physiquement parce qu'on veut continuer à découvrir puis être fasciné par des choses qui nous entourent. Cependant, il y a quelque chose qui a commencé à me chicoter depuis quelques jours, sinon quelques semaines. C'est une intervention que M. Hubert Reeves a dit à un moment donné. Il a peur de ne pas avoir le temps.
Oui.
Je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à l'expression, avec cette expression-là. Avoir peur de ne pas avoir le temps. Est-ce que c'est ça le début de la vieillesse?
Monsieur Dansereau, avez-vous peur de ne pas avoir le temps de faire les derniers films?
Moi, j'ai... Oui, ça, là, j'ai des projets de films, puis j'ai peur. C'est pas tellement que j'ai peur de ne pas avoir le temps. J'ai peur que l'âgisme m'interdise, là, qu'on ne me les laisse pas faire. Comme ça,
ah,
de ce point de vue-là. Là,
donc, c'est pas sur vous que ça repose, c'est sur la société.
Ben, c'est ça ma peur, en tout cas. Ouais. T'as raison, là, tu sais. Mais de ne pas avoir le temps, dans le sens où Olivier l'a dit, là, de ne pas avoir le temps.
D'accomplir.
J'ai pas vraiment ce point de vue-là. J'ai essayé de le dire tout à l'heure. Peut-être que j'ai tort, je sais pas. Mais moi, là, ça m'intrigue, toute la question du sens, puis de la fin de la vie, parce que. J'aurais tendance à croire, je ne peux pas le prouver, tout ça, mais que c'est une forme de vie, pas nécessairement qu'il y a une vie après la mort, mais qu'il y a une forme de vitalité là qui m'apparaît bien mystérieuse, puis ça m'intrigue. Et puis, fait que je suis allumé par ça pour pas j'ai hâte d'y aller. Là.
Elle viendrait me le dire, hein?
Parce que j'ai le goût de mieux... de m'approcher plus profondément dans ce mystère-là, puis de voir plus clair, mais...
Mais donc, ça, c'est ça qui vous intéresse. C'est ça que vous voulez
c'est
apprendre.
C'est une des choses qui m'intéresse.
Voilà. Donc, ça fait un changement dans votre attitude face à votre vieillesse.
Absolument.
C'est une approche beaucoup plus positive, beaucoup plus embrassante de la vie que vous
Mais
avez.
Mais on parlait d'attitude tout à l'heure. Moi, j'essayais, quand tu parlais de l'âge intérieurement, moi, j'ai encore 17 ans.
Oui.
C'est ridicule à dire, mais c'est ça que je sens.
Ouais.
Chaque fois que je me lève le matin, puis quand j'y pense pas que je suis vieux, j'y pense quand les autres me le disent, ou bien tout à coup, quand j'ai mal aux genoux, puis je devrais pas. Ouais. Moi, autrement, je pense pas, je suis bientôt pas occupé. Puis l'attitude intérieure, c'est peut-être génétique, c'est ça, je sais pas, qui m'a été donné depuis toujours, c'est que j'arrête pas d'être intéressé, puis préoccupé, puis curieux, puis challengé, là, de...
Ouais.
Par des choses que je ne connais pas et que je veux saisir.
Peut-être que c'est la curiosité hein, qui est le moteur. Vous parliez de fascination. Mm-hmm. Avant la fascination, il y a peut-être la curiosité.
Mais pour répondre à monsieur, moi, pour ma part, je n'ai pas peur de ne pas avoir le temps. Parce que je sais que je n'aurai jamais le temps. Que le temps est mesuré. Que le temps a une limite.
Ouais.
Et je suis comme monsieur Dansereau. Je voudrais approfondir... Savoir pourquoi je suis là, pourquoi, quel est le sens, pourquoi toutes ces choses qui me sont arrivées au cours de ma vie, pourquoi ce que j'aime, pourquoi le sens, aller essayer de débroussailler tout ça. Et je pense que c'est de ça dont parlait Hubert Reeves l'autre jour, avoir plus de temps pour mieux comprendre. Pour cerner un petit peu, pour toucher un petit peu. Mais je pense qu'on saura les choses
plus tard,
quand on aura passé la porte.
Ah oui, mais comme je disais, n'oubliez pas de venir nous le dire.
On vous fera signe.
Dans mes rêves, moi, vous pouvez venir. Je veux accepter ça. Est-ce que vous avez autre chose à
ajouter,
monsieur?
Merci beaucoup.
Merci. Je vous demanderai de conclure, Louis. Ramassez-moi ça.
Ah, puis... mon Dieu, vous voulez tout de suite que je fasse ça?
Oui.
Moi, je veux juste réagir à ce qui a été dit, parce que c'est vrai que l'attitude de jeunesse peut sûrement aider à évoluer plus longtemps et mieux. Mais c'est clair qu'on peut peut-être se sentir plus jeune quand on a beaucoup de beaux projets comme ça. On a des films à produire, on a des pièces de théâtre à monter, on a des planètes à sauver, dans le cas d'Hubert Reeves. Mais moi... C'est sûr que comme intervenant et chercheur dans le domaine de la santé chez les personnes âgées, ce qui m'inquiète toujours, et c'est ce dont on discute souvent avec les étudiants, c'est ceux qui n'ont pas ces projets-là, qu'on n'est pas capable d'atteindre. Parce que quand on s'intéresse aux aînés, le défi, c'est de les atteindre. Quand vous travaillez auprès des jeunes, vous n'avez pas ce défi-là.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Il y en a plein qui n'ont pas de projet, puis qui se laissent un peu anéantir par l'avancement en âge, puis à qui on a envie de dire... Faites du sport.
Oui, mais il y en a des jeunes comme ça aussi.
Oui, 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 mais il y en a plus d'aînés, je pense. Parce que les jeunes, là, il faut se le dire, les jeunes, ils n'ont pas le droit de ne pas aller à l'école. Moi, si mes enfants ne vont pas à l'école, l'école m'appelle. Si je ne réponds pas, la police va venir. D'ailleurs, je me sers de cet argument-là auprès de ma fille ces temps-ci. Et donc, je n'ai pas le choix. Elle va à l'école. Si elle n'est pas intellectuellement alerte ou qu'elle n'est pas en santé, quelqu'un va s'en rendre compte. Il y a un psychologue à l'école, il y a une infirmière. C'est plus le cas pour les personnes âgées. Il n'y a plus de patron qui va les virer s'ils ne sont pas bons. Parfois, il n'y a plus de conjointe. Monsieur est chanceux, il a fait une rencontre intéressante, mais des fois, il n'y a plus de conjointe pour leur dire qu'ils n'ont plus de mémoire. Hein? Et c'est là tout le défi. C'est pour ça que j'accepte volontiers quand je me fais dire qu'on fait des découvertes de bien vieillir puis qu'on ne regarde pas toujours le côté de la sagesse et tout ça. Mais il y a tellement de monde qui en ont besoin de ces recherches-là pour se rendre compte qu'ils peuvent un peu inverser le sort. Et j'en tiens pour preuve toutes les personnes âgées qui viennent nous voir, qui n'ont jamais fait de sport, mais qui ne veulent plus jamais arrêter quand ils repartent. Ils ont trouvé quelque chose, ils ont un groupe. Des fois, ils se font des groupes, ils développent des projets, ils développent des choses, puis c'est merveilleux de les voir aller. Et même si la science ne marchait pas tout le temps et que j'aurais juste fait ça, je serais content quand même. Je pense que c'est l'exemple d'avoir des projets, de rester jeune parce qu'on a des projets, c'est merveilleux. Moi, je trouve que ça confirme ce que nous, on observe. Puis le défi, c'est de permettre aux gens de se permettre de rêver un peu puis d'avoir envie de faire des projets, même si on ne s'appelle pas Hubert Reeves ou même si on n'est pas une comédienne ou un scénariste.
Un cinéaste. Bien, merci beaucoup, Louis Bérère. Et c'est pour ça qu'on avait invité Mme Fauché et M. Dansereau, parce qu'on a besoin, et là, je parle vraiment pour moi, qui suis peut-être plus jeune que beaucoup de personnes ici, mais Nous avons besoin de modèles plus âgés que nous. Vous autres aussi, vous avez besoin de modèles de 90 ans qui peuvent vous dire qu'ils sont en amour à partir de je ne sais pas trop quel âge. On a besoin d'entendre cette parole que vous incarnez, qui est, et parce que vous êtes des artistes, vous êtes restés vivants, alertes, dynamiques, actifs, parce que dans votre âme d'artiste, il y a ce besoin-là d'exprimer l'art. Et en ce sens-là, vous êtes des modèles, et vous êtes des modèles pour les gens qui viennent vous écouter, mais on est un peu des modèles les uns pour les autres. Alors, mais vous avez un petit peu plus de modèles que le reste du monde. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre vie avec nous. Merci. Alors, M. Bérère va prendre les noms de ceux qui veulent devenir ses cobayes, si vous voulez bien. Puis pour les autres, Dominique? Jeudi prochain, donc, il y aura une autre séance que j'animerai avec Mme Guylaine Ferland, qui s'appelle, et ça va être super intéressant, elle va dénoncer des suppléments que vous prenez, je suis certaine. Elle va dire qu'est-ce qui est intéressant de manger quand on vieillit. Et donc, on va parler de la nutrition pour mieux vieillir. Encore une fois, on n'est pas contre le fait de vieillir, mais on veut en profiter, quoi. Alors, je vous invite jeudi prochain, même heure, même poste. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là.